Monsieur, depuis combien de temps habitez-vous Orléans?
2 ans.
Et qu'est-ce qui vous a amené à vivre à Orléans?
Ma profession.
Vous plaisez à Orléans?
Oui.
Et pourquoi?
C'est mon pays d'origine.
Et vous êtes revenu donc.
Non, je suis 60 km, c'est pratiquement le pays d'origine.
Ah oui, vous êtes né
Oui,
à 60 km
60 km,
d'ici.
oui.
Oui. Et quelle est votre profession qui vous a amené à vivre ici alors?
De part, j'avais trouvé une place chez un géomètre à 30 km d'Orléans, et ayant passé les examens, j'étais amené dans une grosse maison, et seule une ville comme Orléans offre des débouchés semblables. Et il y a également le Collège des arts et métiers qui me permet de continuer ma profession, ce que je n'ai pas dans les petites villes, parce que je suis actuellement expert géomètre stagiaire. Et pendant ce stage, je dois passer toujours des examens afin d'avoir le diplôme final qui me permet par la suite de m'installer mon propre cabinet.
Oui.
Et seule une grosse ville universitaire me permet d'avoir ses cours le soir à ma portée sans faire des déplacements en voiture de 30 ou de 50 km, ce qui est beaucoup plus fatigant.
Oui, bien sûr.
J'aurais pu aller à Blois, mais Blois n'était pas non plus n'a pas ses cours. Et c'est pourquoi je suis venu à Orléans, et également la place que j'ai trouvée dans ce gros cabinet est très intéressante.
Et en quoi consiste exactement votre travail?
Mon travail à moi dans la profession en général, ou alors le.
Non, en fait, ce que vous faites vous-même en particulier, plutôt.
Eh bien, notre cabinet a une centaine d'employés et nous sommes divisés par service. Il y a le patron et 7, 8 services. Et je suis le chef d'un service, juste après le patron. Et mon service est chargé de tous les travaux avec les communes, les notaires, les architectes et les gens privés qui ont besoin d'un petit travail pour eux.
Ah oui.
Vous voyez,
Oui,
j'ai un contact direct avec la clientèle. Je vais les voir, tout. Et en plus de travail technique, j'ai un gros côté expertise et bornage. Je suis appelé dans des conflits de propriété, de limites de propriété et tout ça. Voyez. Et je vais jusqu'au tribunal et je dépose des comptes rendus sur l'État. Enfin, nous ne sommes pas encore agréés. Notre maison près des tribunaux, mais nous y allons quand même en défendant une partie, vous voyez.
Et est-ce que vous faites jamais des travaux de remembrement?
Alors, notre maison, puisqu'elle est si importante, c'est qu'il y a une grosse part de remembrement.
Ah oui.
Sur 100 personnes, il y en a 50 qui sont spécialisées en remembrement. Alors, nous avons un cabinet à Orléans, où il y a 50 personnes, un deuxième cabinet à Besançon et un troisième cabinet à Nantes, enfin à côté de Nantes. Et il y a environ, enfin dans ces trois cabinets remembrement, 50 à 60 personnes.
Et vous êtes une organisation privée.
Privée, oui.
Et il y en a qui sont des organisations d'État, je crois, pour le remembrement aussi. Géomètre.
Non, non, pas en
Non?
France.
Ah non, c'est tout
Nous
à fait
sommes,
privé.
c'est tout à fait privé.
Ah
Les travaux nous sont donnés par l'État
oui.
et nous sommes vérifiés par l'État. Vous voyez, c'est le génie rural,
Oui.
qui est un organisme d'État, qui nous distribue les travaux et nous sommes vérifiés par lui et par le service des impôts, étant donné que le remembrement touche la propriété de chacun. Et que la surface que l'on donne, c'est la surface sur laquelle les gens seront imposés. Alors, c'est pourquoi c'est vérifié. Alors, nous sommes agréés, évidemment, sur 1600 géomètres en France. Il y en a peut-être 1000 agréés pour faire du remembrement. Alors, nous avons du matériel très, très moderne et comme des appareils de restitution de photos aériennes. Vous connaissez, enfin, c'est un,
oui.
On fait les photos aériennes et on sort les plans, vous voyez. Alors, le service du remembrement occupe 50% de nos employés. Avec ça, nous avons une autre branche dans notre profession, enfin dans notre bureau, c'est la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Nous sommes chargés au compte de l'EDF, Électricité de France, de vérifier toutes les installations, aussi bien béton que ferraille, que tout, pièces lourdes et tout, et nous avons 10 personnes qui sont continuellement sur la centrale et nous vérifions toutes les mesures avec très grande précision. C'est la branche peut-être la plus intéressante techniquement, parce que c'est très fort, les gens qui sont là sont les meilleurs techniciens de chez nous, des ingénieurs et tout. Et après, nous avons un autre marché depuis en Espagne. C'est notre patron. Et nous avons une centrale à côté de Barcelone, enfin à 100 km de Barcelone. Et nous pensons avoir d'autres marchés tels que Marcoule, une deuxième tranche de Marcoule, vous voyez ce genre de. Et puis nous avons aussi un autre service. Si vous avez entendu parler de la source, Orléans-la-Source, toute la ville, vous devez connaître.
Oui.
Nous sommes chargés de toutes les implantations de la source, de tous les travaux de géomètres qui sont faits à la source. Alors nous avons encore un petit cabinet sur place, dans la source, qui travaille là-bas.
Est-ce que c'est un travail plutôt d'exécution ou de. Comment est-ce qu'on dirait
de recherche.
De recherche ou de dessin ou de. Enfin, est-ce que vous exécutez les plans faits par autrui?
La source, oui. En plus grosse partie. On exécute les travaux qui nous sont commandés, mais avec précision.
Oui.
Bon. Saint-Laurent, c'était un travail de vérification. Vérification et calcul.
Oui.
Calcul uniquement, mesure de précision. Le remembrement, c'est créer, nous créons, puisque le projet, c'est le géomètre qu'il fait avec les agriculteurs. C'est très, très intéressant, parce que nous travaillons avec l'homme, et puis il n'y a pas beaucoup de professions où nous pouvons sentir les gens tels que nous les sentons, parce que nous touchons à leur terre.
Oui.
Je ne sais pas si vous êtes au courant.
Oui. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai lu un livre qui s'appelle...
Terre mouvante.
Terre mouvante,
je crois que c'est le livre qui est typique remembrement.
Vous croyez,
Je crois.
C'est un maire d'un petit village qui l'a écrit.
Qui raconte son remembrement.
C'est ça.
Voilà,
c'est
je crois qu'il est caractéristique avec tous les. Oui, j'ai ce livre aussi.
Oui.
Et c'est exactement ça. Oui.
Je suis contente de vous entendre dire ça parce que ça m'a rempli.
Je ne l'ai pas lu, vous voyez, parce que j'ai beaucoup de travail puisque je fais mes études en plus de mon travail normal. Et comme j'ai une place assez importante, j'ai beaucoup de responsabilités de travail. Alors, pour l'instant, je ne laisse pas de place pour les lectures.
Non.
Mais j'ai vu ce livre et je sais que c'est vrai. Disons, c'est pas toujours comme ça, mais c'est un rassemblement de cas typiques. Vous voyez? Il y a pris un peu de chaque cas partout, mais c'est exact.
Oui.
On voit sortir dans les remembrements toutes les vieilles histoires de famille.
Oui.
c'est extraordinaire.
Oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous semble le plus important dans ce travail de remembrement vous-même? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous?
Vous savez, le remembrement, enfin, je connais, je sais ce que c'est, j'en ai fait un peu. Le travail de remembrement, c'est pour donner à l'agriculteur une plus grosse rentabilité. Dans sa profession, la façon de cultiver ses terres, bien, il a des parcelles plus grandes, bon, c'est mieux. Mais Enfin, le plus important, c'est le projet, c'est la façon de faire le projet avec eux, vous voyez, de placer leur terre. Mais enfin, je sais pas quel est vraiment le plus important. Il y a un travail technique aussi très important. Évidemment, le plus important, pour ceux qui aiment ça, c'est le contact humain. Vous savez, moi je suis d'origine agriculteur,
oui.
Alors je les sens beaucoup, et quand je les vois, je les comprends bien d'abord, et puis j'essaie de faire pour le mieux, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup de géomètres qui sont... Vous voyez, sur le total des employés chez nous, il y en a très peu qui aiment et qui sont capables de faire un projet. Parce qu'il faut vivre avec eux. Et jusque maintenant, c'est monsieur, mon patron, qui a toujours fait le projet dans les trois cabinets. C'est un homme très chaud, vous voyez, qui a une forte personnalité. Et qui use l'agriculteur.
Oui.
il faut l'user, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas lâcher, parce qu'ils ont toujours des bonnes raisons, mais il ne faut pas les écouter trop.
Il faut aller vivre avec eux alors?
Non, il faut vivre avec eux pendant le projet.
Oui.
C'est-à-dire que pendant 15 jours, on est tous les soirs avec eux, voyez. Et il faut, pendant ces 15 jours, il faut... Puisque nous avons fait beaucoup de remembrements, nous savons mieux qu'eux comment il faut faire, et il faut toujours voir plus qu'ils demandent. Et ils ont demandé le remembrement, mais sans vouloir que ça change trop de choses, vous voyez. Alors il faut pousser plus, et il faut toujours aller plus en avant. Et quand on a fini un remembrement, il y a souvent des bagarres, des disputes. Mais quand on repasse dans la commune 5 ans après, ou 2 ans après, les gens nous disent, si on vous avait écouté, ce serait encore mieux.
Oui.
Toujours.
Et pour vous, un remembrement, est-ce que c'est un commencement ou une fin en soi? C'est-à-dire l'organisation, la réorganisation de la Terre, qui est un remembrement. Est-ce que cela vous suffit comme expert?
Nous n'avons pas le choix de dire si c'est un commencement ou une fin.
Ah.
Nous n'avons que ça à faire. Vous voyez? Enfin, c'est une petite fin, parce que en plus, on a des travaux d'amélioration foncière qui s'ajoutent. Et on peut dire qu'une commune, après un remembrement, vous laisse... C'est un résultat. Ah oui, c'est un plaisir quand même. Oui. Maintenant, le remembrement tend de plus en plus à disparaître. Pour la première des raisons, c'est qu'il faut supprimer les agriculteurs. Et supprimer les agriculteurs, c'est commencer par leur enlever les moyens de rentabilité. Et depuis cette année, les géomètres ont été prévenus que dans un an ou dans 2 ans, ils n'auront plus que 30% des marchés actuels. Vous voyez. Pour certains cabinets, c'est catastrophique. Parce qu'il y a des cabinets qui sont uniquement remembrements.
Oui. Oui. Alors, ce n'est pas à dire que les remembrements sont terminés. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne plus en faire.
Oui, c'est ça. Et puis les régions les plus riches sont terminées.
Ah oui.
Les plus faciles.
Oui, oui.
Bon, et les régions qui restent sont les régions pauvres.
Ah oui.
Ou moyennement riches. Le remembrement coûte plus cher à l'État pour un gain de rentabilité très petit. Alors, dans la politique actuelle du plan Mansholt, il faut supprimer, alors on supprime, on arrête.
Ah oui.
Vous voyez.
C'est-à-dire, enfin, j'utilise un mot assez dur peut-être, mais on laisse mourir. Alors.
Oui, 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 oui. Oui, exactement, oui.
Oui,
oui, je sais que ça peut vous paraître dur de dire ce que je dis, mais c'est vrai, c'est la politique actuelle. Il faut laisser, on laisse les agriculteurs absolument partir, on ne les aide pas du tout, on les laisse mourir comme ça, c'est le vrai mot, c'est le mot juste. Ça va d'ailleurs très très vite, si vous voyez.
Très très vite, qu'est-ce qu'on va...
Le départ de ces agriculteurs,
oui.
Depuis 2 ans, il y a une accélération de faillite, si vous voulez, ou de, vous voyez, de ce genre, c'est catastrophique.
De faillite même.
Oh, de faillite agricole, oui. Et les gens ne font pas faillite puisqu'ils vendent leur propriété. Vous voyez, donc c'est pas des faillites, c'est pas des faillites commerciales, on ne dépose pas un bilan. Et arriver à la vente de la propriété, c'est la même chose. C'est plus grave encore parce que c'est la faillite de l'homme, quoi.
Et puis ça dépend à qui ils vendent.
Oui, c'est ça. De toute façon, qu'ils le vendent à n'importe qui, pour celui qui vend, c'est la faillite.
Oui. Allez. Et pour ceux qui... Enfin, je me demandais...
Si c'est un agriculteur qui rachète, dans des régions riches, oui. Dans des régions de Beauce, Brie, dans la Picardie, oui, c'est des agriculteurs qui rachètent. Mais dans des régions comme le sud de la Loire, c'est pas des agriculteurs. Ce sont des gens qui achètent soit pour la chasse, soit pour le plaisir, ou vous voyez, c'est des terres qui ne vont plus à l'agriculture, ou qui vont à une agriculture de plaisir, quoi.
Il faut peut-être ça aussi, quand même. Il faut peut-être des terres consacrées au plaisir.
Oui, d'accord, je suis bien d'accord. Mais pour consacrer ces terres au plaisir, les gens qui vivent dessus, il faut leur donner quelque chose pour sortir de là. Et si les agriculteurs s'en vont à la ville ou s'ils s'en vont quelque part, c'est pas une réussite. Vous savez, il y a peut-être une chance, c'est que les agriculteurs sont des gens assez travailleurs, enfin, en majeure partie, et quand ils se trouvent en ville avec la mentalité un peu extrémiste des gens de la ville, eh bien, ils arrivent toujours à se faire une place, que ce soit n'importe où. Vous voyez. Mais c'est pas de gaieté de cœur, hein. Il faut pas croire que... Et puis alors vous avez les gens qui ont 40 ans actuellement, qui n'ont pas le choix, qui ne retourneront pas en ville. Alors on les retrouve comme employés d'autres personnes. Vous savez, c'est pas très gai pour ces gens-là.
Non, cette période, je suppose, surtout la transition.
Ah, oui.
À long terme, on pourrait dire que c'est une période de transition.
De transition, mais alors on est complètement... on est dans le vide, quoi. Il n'y a rien qui est fait pour ces gens-là. Bien que on vous dise partout, il faut faire quelque chose, il faut trouver... Pensez-vous. C'est de la plaisanterie. Oui,
je sais que... Vous avez dit, monsieur, ce que vous aimez, ce que vous plaisez, le contact avec les personnes.
Oui.
Si vous ne faisiez pas ce métier, que préférez-vous faire?
Si j'ai commencé d'abord, puisque je suis d'origine agriculteur, j'ai commencé à être agriculteur. Et nous avons compris il y a 10 ans, quand je suis sorti du collège, que ce qui se passe actuellement, mes parents ont vu que ça se passerait. Alors ils m'ont branché directement sur une autre profession. Et la profession que j'aimerais d'abord, c'était être agriculteur. Voyez. Et puis mes deux frères sont partis également. J'en ai un qui est médecin, et puis l'autre qui fera son droit. Et, enfin, je pense, enfin, le petit droit et langue en même temps. Mais moi, c'était l'agriculture. Je pense qu'en étant géomètre, je touche de très près cette profession. C'est pourquoi je me suis retrouvé dans cette profession. Parce qu'on a du travail grand air, et puis on a du contact avec les gens, et on a du contact avec les gens qui ont de la terre. Vous voyez? Autrement, si j'avais été... Enfin, je pense que si j'avais été en ville, j'aurais essayé d'être architecte ou quelque chose comme ça, vous voyez. Parce que je suis un peu artiste.
Oui,
j'aime bien cette profession, c'est intéressant. Parce qu'ils font quelque chose de...
Quelque chose de créateur.
Oui, de créateur, oui. Oui, de créateur et de goût. Vous voyez. Oui. J'aurais pu être architecte ou paysagiste, ou vous voyez, ce genre de profession.
Ça, c'est... même être les deux.
Ah oui, il y en a, il y en a.
Paysagiste, si je ne me trompe.
Si, oui,
j'ai
on peut,
vu
on peut, oui.
Un tableau à l'entrée, une petite peinture à l'entrée, j'ai vu, ou ici dans la salle.
En bas?
En bas peut-être.
Non.
Non.
Mais on nous dit que le vrai artiste reste toujours seul. Vous n'aurez pas de contact avec les gens que vous cherchez alors.
Oui, le vrai artiste reste seul, mais je n'ai pas la prétention d'être un vrai artiste. Non, pas du tout quand même. Je suis un peu, peut-être un peu, mais enfin, non, je suis plus réaliste que ça. Mais... Je reste pas seul, non, pas à ce point-là. Mais si je peux, là, quand j'aurai fini mon diplôme, si je peux, j'essaierai de faire une spécialité d'urbaniste.
Ah oui.
Et, ou quelque chose comme ça.
Oui.
C'est possible dans notre profession. Alors j'essaierai d'en profiter.
Oui. L'urbaniste à Orléans.
Non, pas spécialement à Orléans, parce que l'ordre des géomètres, comme je suis stagiaire à Orléans, je ne pense pas pouvoir être un jour géomètre à Orléans. Vous voyez ?
Ah oui.
Ou alors acheter un cabinet sur Orléans.
Mm-hmm.
Mais ce n'est pas forcé. Et même je crois que en étant employé principal et stagiaire dans un cabinet d'Orléans, si je veux avoir un cabinet à moi, je serai obligé d'aller à 40 ou 50 km. De toute façon, je resterai dans la région. Soit Tours, soit Blois, soit Chartres, vous voyez, c'est ce secteur-là.
Vous avez des opinions sur la manière dont la ville se développe ?
Orléans, oui. Enfin, j'ai des opinions, j'ai des constatations plutôt.
Constatations.
Parce que des opinions... Enfin, je suis bien au courant quand même, étant donné que la personne qui a lancé la source,
oui,
c'est Monsieur Sudreau. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un vous a dit jusqu'à maintenant que c'était lui qui...
Non, on ne nous a pas dit son nom. Enfin, on connaît la source, on a vu la carte dans le cabinet de M. le maire, et puis on nous a dit que c'était une grande entreprise de construire la source et que c'était une propriété privée qu'on avait achetée. Mmh. C'est à peu près tout ce qu'on sait.
C'est tout ce que vous savez sur
la
source ?
Enfin, on y est allé, on a vu l'université, on a vu les HLM, on a vu le parc. Et puis oui.
Si vous savez, actuellement, enfin, en France, nous ne pouvons pas dire ce que nous pensons beaucoup. Parce que un monsieur comme monsieur le maire, il est serré par le gouvernement.
Ah, oui.
Étant donné que d'abord il n'est pas excessivement gaulliste. C'est pas. Alors il est obligé de se tenir bien. Et c'est un monsieur qui a de grandes qualités. Monsieur Secrétin. Et quand la source a commencé, il y avait au ministère de la Construction, Monsieur Sudreau. Je ne sais pas si vous connaissez, d'entendre parler.
Ah oui, celui-là, oui, je ne sais pas.
Ancien ministre de la Construction,
oui.
Sous De Gaulle, qui a démissionné. Et c'est lui qui a fait acheter ce domaine à Orléans, qui a dit... vous commencez les travaux et je vous garantis que l'État viendra à votre secours. Et puis, ça n'a pas marché. Lui n'a pas marché avec De Gaulle. Il n'a pas admis la façon grossière et assez personnelle de De Gaulle de commander. Il a dit, puisque c'est comme ça, moi je m'en vais. Et la source est restée. Et c'était une très grosse charge pour Orléans. Parce que c'est une réalisation importante.
Oui.
Et cela coûte très cher à la ville. Vous pensez que il y a de l'aide de l'État, mais pas beaucoup. Enfin, le vrai point de départ est celui-là.
Ah oui, c'est ce
ministre qui enfin, il n'était pas ministre, il était premier secrétaire d'État. Oui. Enfin, c'est pareil. Et actuellement, dans l'urbanisme, dans la reconstruction, c'est ce monsieur qui... Enfin, c'est ce qu'il a fait qui est le mieux, quoi, le plus en vigueur et tout.
Oui.
C'est un homme très très valable. Et au moment des événements de mai, Pompidou voulait le reprendre dans son cabinet. Actuellement, c'est un centriste. Donc, vous connaissez les familles politiques.
Oui.
Enfin, il est centriste, il n'est pas Le Canuet, il est au même groupe que Le Canuet. Oui. Et... Quand Pompidou a voulu le reprendre dans son cabinet. Vous savez qu'il y avait un cabinet de transition de 3 semaines. Il a dit non, je n'irai pas dans votre cabinet. Ou il a dit si je vais dans votre cabinet, c'est avec une formation complète de centristes, c'est-à-dire avec 4 ou 5 centristes. Et Pompidou enfin, a dit non, si, c'est pas s'il voulait lui, parce que c'était un homme bien. Et il était à ce moment-là, il était député de Blois. Je suis droit député de Blois. Vous connaissez Blois, enfin, oui. 40 à 60 km. Et quand il a dit non, comme ils ont préparé les élections législatives quelques semaines après, ils ont envoyé à Blois Couve de Murville et ils ont fait présenter un ancien, je sais pas quoi, enfin, un ancien ambassadeur contre Sudreau à Blois pour essayer de. Il est resté, il a passé à Blois. Et c'est un homme qui est de la région, il est de Blois, ses parents sont en Sologne et tout. C'est typiquement gaulliste, quoi. Typiquement politique. Oui. C'est lui qui a lancé cette affaire de la source. Et je crois, enfin d'après, de toute façon ce que je dis c'est officieux, hein, je crois qu'il a voulu faire la même chose à Toulouse, vous voyez, mais encore plus important.
Je voulais parler d'un domaine à Toulouse,
oui.
Qu'on essaie d'aménager en une sorte de centre industriel, mais centre social aussi.
Oui, enfin, lui, ce qu'il voulait, c'était un Toulouse 2.
Oui.
Il a dit, il faut faire pareil, et ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'il a dit, moi, je m'en vais. Parce qu'il s'est heurté aux personnalités du coin qui ont dit, non, il ne faut pas ceci, et puis comme c'était des personnalités gaullistes, ils ont obtenu gain de cause, et puis ça n'a pas marché. C'est pourquoi il est parti, je crois.
Et puis, les fonds pour la source, donc, sont arrêtés.
Ah non, non, mais c'est... Non, ça marche, ça oui. Continue. Si, ça avance, si, il y a beaucoup de travail de fait.
Oui.
Mais c'est... Les moyens distribués sont minimes. Mm. Les moyens distribués par l'État, c'est une grosse charge pour la ville d'Orléans. Peut-être plus importante que s'il y avait eu le Sudreau toujours là qui aurait donné.
Oui.
Mais Orléans a fait beaucoup, beaucoup de progrès. J'ai connu Orléans aussitôt après la guerre. C'était pas.
Oui.
C'est une ville assez froide. Vous voyez. Moi je suis du sud de la Loire, bien que je ne sois qu'à 50 km, 60 km. Je suis berrichon, comme on dit,
oui.
Vous savez.
Mm-hmm.
Et nous sommes. Chaud, plutôt accueillant que les Beaucerons, les Orléanais sont des gens très froids. Il n'y a aucune comparaison de société entre ces gens-là et nous. Vous passez la Loire, vous pouvez considérer que la Loire, c'est une extrémité, c'est une barrière de gens. Hein. Ça, c'est caractéristique. J'ai des collègues au bureau qui sont très gentils, qui sont Orléanais typiques. Eh bien, vous pouvez aller chez eux, il n'y a pas. S'assoit, mais c'est tout, vous voyez. Et puis, ils ne vous disent rien de ce qu'ils font, ils sont très, très fermés, très... Et si vous vivez à Orléans, pour rentrer dans des familles, il n'est pas question de connaître ces gens-là.
Et,
c'est très long, c'est très, très long. Ah oui, ça c'est...
Et ce qui m'intéresse, c'est... Nous avons vu, n'est-ce pas, les HLM, par exemple. On parle des l'économie mixte, n'est-ce pas? On voit les habitations tout à fait mixtes. Est-ce qu'il y a un contact entre les gens de différentes classes qui sont apparemment tout à fait différentes selon leurs habitations?
À Orléans?
Oui.
Est-ce que c'est typique Orléans ou est-ce que c'est...
D'abord, est-ce que c'est typique ou est-ce que ça marche, c'est-à-dire ce mélange?
Oh, il n'y a pas vraiment un mélange sur Orléans. Vous savez, ça, il y a des zones qui sont plus populaires que d'autres. Enfin, plus populaires, je m'entends, où les personnes qui habitent dans ces HLM sont des gens de sociétés plus modestes que d'autres. Ça, c'est certain. Vous avez le quartier de l'Argonne sur Orléans, où vous parlez du quartier de l'Argonne à une personne, un professeur ou un... N'importe qui, non, je ne veux jamais le quartier de l'Argonne, vous voyez. Je conçois que moi, je n'irais pas non plus au quartier de l'Argonne. Si je pouvais m'en dispenser, il y a un contact d'avoir une population étrangère importante, et puis c'est les vrais. C'est le genre grosse cité parisienne, vous savez, Sarcelles, vous voyez, ce genre de. Oui. Si vous avez entendu parler. C'est la même chose en plus petit.
Oui.
Il n'y a pas de contact entre ces gens-là et les gens qui sont je ne sais pas moi, dans des immeubles de standing. Absolument pas de contact.
Je crois qu'en face de la gare, il y a des immeubles de différentes qualités.
Il y a des grands standings, qui est plus près du centre, et puis plus loin. Mais vous savez, c'est les plus pauvres sont déjà bien, quoi.
Mm-hmm.
C'est moyen, comme. Il n'y a pas du tout de. C'est pas d'HLM. Les plus pauvres sont pas d'HLM. Il y en a un peu plus loin, oui, qui sont HLM, mais ça, c'est bien, ils sont bien, ceux-là. De toute façon, contact de population, ils n'ont aucun moyen de contact. Étant donné qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de tennis, il n'y a rien, il n'y a pas de piscine, comment voulez-vous qu'ils se contactent? Alors, ils vivent exactement comme dans une rue normale, ils rentrent chez eux, et puis... De toute façon, il n'y a pas plus... Si vous devez bien connaître quand même... Si un grand immeuble comme ça, les gens ne sont pas plus séparés, on ne peut pas trouver des endroits où les gens sont plus séparés que dans un grand immeuble. Une collègue de bureau qui vit dans un immeuble là, au 6e, il y a 12 étages, sa voisine qui s'est asphyxiée par le gaz, elle est restée 8 jours sans que personne ne s'aperçoive qu'elle était morte. Ouais, alors que vous êtes dans les maisons particulières, eh bien... Si vous ne voyez pas votre voisin sortir pendant 2 jours, vous irez voir qu'est-ce qu'il y a, tandis que là, absolument rien. Bon, ça, c'est caractéristique, je veux pas...
Oui.
Vous devez bien être au courant quand même
ce
genre de
vie,
vous savez. C'est partout
oui.
Pareil.
Les contacts sont dans les ascenseurs et puis c'est tout.
C'est tout, c'est tout.
Oui.
Il n'y a rien, c'est lamentable.
Oui.
Moi, j'ai vécu 6 mois dans un immeuble comme ça, et c'était un immeuble de grand standing. On avait piscine, on avait tout. Oui. Piscine, tennis, c'est le seul à Orléans. Et c'est pas drôle, c'est pas.
Vous avez parlé, n'est-ce pas, de paysage, comme paysagiste. On voit ici les grands bâtiments, les grands immeubles, des colons de béton, n'est-ce pas.
Ah, ça, c'est les architectes. C'est les architectes, ça.
Pas de pelouse, pas de fleurs, pas d'arbres.
Et oui, je sais. Il y a quelques pelouses, mais pas beaucoup.
Et défense de marché sur les pelouses.
Oui, mais enfin, c'est pas notre caractère, ça, c'est pas encore des plus typiques français, défense de marché sur les pelouses. Nous, on met défense de marché sur les pelouses, mais on va marcher sur les pelouses. Tandis que si vous allez en Allemagne, défense de marché sur les pelouses, et on ne marche pas sur les pelouses. Je sais pas comment c'est en Angleterre, je suis pas allé, mais. C'est
en
certainement.
Généralement, on s'attend à ce que les défenses de marché sur les pelouses soient respectées.
Oui.
Oui.
Nous, c'est respecté peut-être plus maintenant, mais ça dépend dans quelle résidence. Hein. Si vous avez des résidences, oui, c'est respecté, mais d'autres, non. Mais je crois que tous les caractères pelouses et tout ça, et les grandes colonnes de béton, ben, c'est uniquement. Qu'une chose qui manque, c'est l'argent, hein, c'est tout. Pensez bien que s'il y avait de l'argent, ça coûterait rien de faire des pelouses. Oui. Je pense que c'est ça. On fait, quand un architecte fait un projet ou un promoteur fait un projet, il est obligé de tourner au minimum. Il faut. Parce que les gens, ils savent très bien que s'ils font telle chose, ça ne sera pas vendu, vous voyez. C'est tout, c'est l'argent.
Avant de passer à autre chose, on pourrait peut-être vous poser quelques questions sur l'enseignement. Je
ne sais pas
si ça vous intéresse.
Oui, je veux bien, oui.
Mais, enfin,
ce que je pourrais vous dire.
Oui.
Parce que je ne suis pas...
Première question, à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait surtout apprendre aux enfants à l'école?
Leur apprendre comment?
Qu'est-ce qu'on devrait surtout les apprendre?
Aux enfants, aux petits ou aux grands ou...
Aux petits et aux grands, si vous voulez. Aux petits ou aux grands.
Ce qu'on leur apprend, enfin, jusqu'à maintenant, n'était pas absolument mal. Il n'y a pas de problème, c'était pas mal. Peut-être qu'il y avait un manque d'orientation, mais peut-être qu'il faudrait alléger les programmes dans certaines branches, mais enfin, ça, c'est pas forcé, vous voyez. Mais ce qui leur manque surtout, j'étais 2 ans surveillant dans un collège.
Ah oui.
C'est la discipline.
Ah oui.
Et c'est de plus en plus grave. C'est catastrophique maintenant. Depuis les événements de l'année dernière.
Oui.
C'est catastrophique. Enfin, vous devez bien connaître, si vous connaissez des professeurs.
Alors, on a entendu parler un petit peu, oui. Mais à quoi est-ce que cela tient alors, le manque de discipline, pensez-vous ?
Manque de discipline, c'est pas de la faute des professeurs, c'est pas de la faute des surveillants, c'est de la faute de la mentalité des gens.
Ah oui.
Tout le monde dit que tout le monde devrait avoir sa discipline personnelle. Avec un tempérament français, si vous voyez ce que ça peut donner. Hein. Tout le monde fait comme bon lui semble, et puis il n'y a plus de punition possible, il n'y a plus rien. C'est... Autrement, apprendre, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, c'est difficile de dire ça, moi je ne sais pas ce qu'il faut plus ou moins, vous voyez. Jusqu'à maintenant, les cerveaux français ont été valables. Enfin, je ne sais pas. Vous ne pensez pas non plus que jusqu'à maintenant, c'était pas mauvais. Évidemment, c'est toujours la même façon, il faut évoluer, d'accord, mais...
Vous avez un enfant.
Oui.
Oui.
Une petite fille, elle a 2 ans.
Elle a 2 ans.
Pas encore.
Peut-être un peu tôt.
Oui.
Mais quelles sont les matières que vous estimez les plus importantes ?
Je pense que d'abord, il faut que l'enfant apprenne ce qui lui plaît le plus. Mais j'essaierai de lui donner un maximum de culture et de lui montrer le plus de choses possibles. Vous voyez, je pense que une question d'information qui est très très importante, et ça c'est notre avantage si nous sommes des parents un peu plus évolués que d'autres, vous voyez. C'est d'essayer de les guider. Et si elle veut faire des lettres, elle fera des lettres. Si elle veut faire des mathématiques, elle fera des mathématiques. Vous voyez, actuellement, évidemment, c'est la science qui prime.
Ah oui. Pourquoi?
De parler des bouchers.
Oui.
Vous pouvez faire une licence de droit, vous aurez toujours une place, mais ce sera... Il y en a très peu qui sortent. Vous voyez, et puis, si vous faites un droit seulement du droit, c'est banal. Enfin, c'est banal de par la place que vous aurez après, vous voyez. Et si vous faites des sciences, ben, vous avez quand même, enfin, sciences, maths, physique, ou sciences appliquées, vous avez quand même plus de chances de trouver quelque chose. C'est le courant actuel. Hein.
Pensez-vous du latin à l'école?
Ici, oui, on fait beaucoup de latin. Qu'est-ce que je pense, moi,
oui,
du latin?
Que pensez-vous?
Moi, j'en ai jamais fait.
Ah oui?
Ma femme...
Vous l'avez fait pour l'inviter de faire du latin.
Et non, en France, il y a le moderne et le classique. Il y a le moderne et le classique. Enfin,
oui.
de mon temps, enfin, quand j'étais petit, je pouvais faire comme maintenant. Vous pouvez toujours passer, être bachelier sans faire de latin. Vous voyez ? Alors, c'est pas... Ça a toujours été comme ça.
Mm-hmm.
Vous voyez ? Et... Disons que le latin, c'est pas mauvais. C'est la condition de ne pas l'emmener trop loin, vous voyez. Condition d'arrêter en seconde ou en troisième. Et mes deux frères ont fait du latin. Ma femme a fait du latin, beaucoup, et elle a commencé à... Elle voulait être professeure de français latin. Et c'est pas mal, ça donne une... connaissance des langues françaises d'abord,
oui.
Et puis c'est notre base de tout, et puis une gymnastique de l'esprit très intéressante,
oui.
Qui se rapporterait la gymnastique des mathématiques, quoi.
Oui. Et cette gymnastique n'existe pas si on apprend simplement une langue étrangère vivante.
Non.
Pourquoi?
Je sais pas, moi, n'ayant pas fait de latin, je peux pas vous donner exactement la définition, mais il est certain que un travail de faire du latin, c'est du travail sans vous raisonner, mais pas tellement. C'est une mécanique.
Et comment est-ce qu'on décide si on va faire des études, c'est-à-dire si on va étudier le latin
en France?
Oui.
Actuellement, dans les sixièmes, on permet à tout le monde de faire un peu de latin pendant. Vous savez, actuellement, mais il y a tellement de modifications que on ne sait plus où donner de la tête. Enfin, la tendance actuelle, c'est de permettre à tout le monde, dès le début, de toucher un petit peu au latin. Vous voyez, enfin, à tout le monde, aux meilleurs élèves, parce que sur 100 élèves, il y en a 70 ou 60 qui vont faire du latin, qu'on estime que cela peuvent regarder le latin. Et puis pendant 6 mois, ils font un petit peu de latin, et puis selon leurs notes, selon tout ça, on leur dit oui ou on leur dit non, vous ne pouvez pas faire de latin. C'est bien parce que il y a comme ça qu'on peut savoir s'ils sont bons, si ce n'est pas les parents qui peuvent choisir. Puis alors vous avez aussi les volontés des parents, quoi. Des gens qui disent, moi, ma fille ou mon fils fera du latin.
Oui, alors pourquoi est-ce important?
Le latin? Oui. Et justement, parce que ça... vous savez, actuellement, enfin, le français, je ne sais pas, j'avais un surveillant général, un professeur, qui disait, les seules matières valables sont les latins. C'est tout. Et c'est beaucoup de gens qui pensent que les lettres et... Ça, c'est la seule chose valable. Et puis, beaucoup de parents actuellement, qui ont une cinquantaine d'années, tout ça, ou 40 ans, 30 ans, sont passés par le latin. Et les professions les plus en vue, les gens les plus évolués, sont passés par le latin. Il faut bien reconnaître que ça donne quelque chose. Soit pas le latin lui-même, mais ce que vous apprenez en faisant le latin, quand vous apprenez les textes anciens, quand vous apprenez tout ça, il faut bien comprendre que ces gens-là, quand ils se trouvent plus tard dans la société, avec d'autres qui ont fait le latin, ils ont des discussions, ils se retrouvent, ils sont différents d'un monsieur qui a fait des mathématiques à outrance, qui est un technicien ou un ingénieur.
Pourtant, les mathématiques me semblent une gymnastique de l'esprit aussi.
Une gymnastique de l'esprit, mais ça n'entraîne pas une conversation.
Ah oui.
Alors que le latin, vous pouvez briller par vos connaissances de lettres. Et,
oui.
Vous voyez, ça, c'est caractéristique. Hein. Je ne sais pas si chez vous, il n'y a pas ce problème de latin chez vous?
Beaucoup moins. Il y a peut-être 20 ans. C'était peut-être la même chose, c'est-à-dire qu'on a choisi le latin comme étant, le latin paraissait être la matière critique, quoi, pour certaines décisions, mais plus maintenant.
C'est-à-dire que ça n'apporte absolument rien au point de vue diplôme, vous voyez. Le latin n'apporte pas... On ne prend pas quelqu'un dans une profession où il ne sera pas plus fort dans une matière parce qu'il a fait du latin. C'est uniquement, enfin je pense, je ne peux pas dire ça parce que moi je n'ai pas fait de latin, mais c'est uniquement une question d'appréciation, quoi. On ne peut pas dire je ne sais pas, c'est spécial. Les gens disent, on a fait du latin, donc on est plus cultivé, donc... Et remarquez, il est certain qu'une personne qui n'a pas fait de latin est moins brillante dans des réunions, tout ça, qu'une autre. Ou alors, il lui faut une possibilité très, 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 très forte d'assimilation. Et alors, en lisant beaucoup, tout ça, vous voyez, remarquez, ça disparaît très vite. Leur supériorité des latinistes, c'est vers 19-20 ans. Et puis après, vous savez... Mais enfin, ça a toujours son vieux préjugé, et en France, je crois que...
Est-ce que vous croyez qu'il y a une différence entre les écoles privées et les écoles publiques?
Ah oui, il y a une grande différence. Tant donné que je suis allé dans les deux, et mes deux frères ont été dans les deux écoles, et mon petit frère, qui a 18 ans, est actuellement en école privée. Et il y a une grosse, grosse différence. Mon frère a commencé. Et moi, je suis allé en petite classe dans les écoles privées. Et ça vous apporte quelque chose d'abord de différent, sans parler de la religion, que vous soyez catholique ou n'importe quoi. Et il y a quelque chose de. Quand on ne côtoie pas les mêmes personnes, ça coûte cher. Les gens qui sont là, c'est des docteurs, enfin des personnes beaucoup plus. Des vieilles familles, vous voyez. Je vais vous présenter ma femme, la petite fille.
On va essayer, monsieur, de voir si c'est. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose, madame? Comment est-ce que vous avez passé votre journée, peut-être?
Elle a dit quelque chose, ben, écoute, quoi. C'est pas difficile.
Vous êtes sortie?
Oui.
Elle était dans les
se
bois.
Promener.
Se promener dans les bois.
Dans la forêt d'Orléans. Mmh.
Ah oui. Mmh. Où est-ce que c'est, la forêt d'Orléans?
Au nord d'Orléans.
Au nord d'Orléans, Saint-Dié. Mais Saint-Dié, c'est la forêt d'Orléans?
Oui.
Parce que je croyais que ça s'étendait du côté de Gien et Montargis.
Oui, nord-est.
Ça marche?
Ça marche,
oui, ça
très
marche
bien.
Pour nous.
Très bien.
Et pour l'autre côté, ça marche?
Oui, pour monsieur, ça marche très bien, je crois. Parce que nous, vous étiez en train de parler des différences entre les écoles privées et publiques,
oui,
n'est-ce pas,
oui,
monsieur?
Mais comment pouvez-vous voir si ça marche?
Parce qu'il y a une aiguille ici, une mouche, qui marche très bien. Bon,
oui, oui.
Continuez, s'il vous plaît, monsieur.
Ils m'ont demandé la différence entre les écoles privées et publiques. D'abord, c'est inversé avec vous, parce que vous, une école publique, c'est une école privée chez nous.
C'est ça.
C'est
oui.
Ça.
Oui. Deux noms. Oui. Les noms sont différents.
Les noms sont inversés. Pour nous, les écoles publiques sont beaucoup plus difficiles que les écoles privées, parce que les gens sont moins connus que dans les écoles privées, et les gens sont moins suivis et beaucoup plus laissés à leur bon vouloir. S'ils ne veulent pas travailler, ils ne travaillent pas, puis c'est terminé, vous comprenez? Des erreurs, des blagues, ils sont mis à la porte, puis il n'y a pas de problème. Mais enfin, cette chose mise à part, prenons un élève normal qui est guidé par ses parents normalement et qui veut travailler comme tout le monde, il y a beaucoup d'avantages, pas d'avantages pécuniaires, mais d'avantages de culture humaine ou de personnalité par la suite, de passer dans une école privée. Vous voyez, les personnes qui sont dans les écoles privées ne sont pas plus qualifiés dans l'enseignement que les autres, peut-être des fois moins, mais c'est plus recherché, c'est plus suivi, et il y a une personnalité qui ressort de l'élève, on lui fait ressortir son maximum, on lui fait ressortir sa personnalité, et également de par le contact de ces personnes qui sont, ces élèves qui sont dans ces écoles, qui sont des élèves triés, ce n'est pas tous les élèves qui veulent aller à l'école. Pour entrer dans une école privée, il faut montrer patte blanche, comme on dit. De par ce contact, c'est enrichissant pour les jeunes qui vont dans ces écoles. Et disons que c'est pas nécessaire, parce que vous avez des personnes qui sortent d'écoles publiques qui sont aussi fortes que d'autres. Mais c'est bon, c'est très bon d'aller faire quelques années dans des écoles privées.
Il n'y a pas de sélection donc par intelligence pour aller dans
si.
Une...
Si. Si, maintenant.
Ah oui.
Maintenant, parce que avant il y avait surtout une sélection d'argent. Mais maintenant, les écoles privées sont également surchargées, comme les autres, et bien sûr qu'ils font intervenir la sélection de l'intelligence, quoi. Il y a certaines écoles qui ne peuvent pas prendre n'importe qui. Il y a des examens exactement comme les autres écoles, vous voyez. Mm-hmm. Ah, si, maintenant, si.
Et les écoles privées, est-ce qu'il y en a des mêmes types que les écoles publiques, c'est-à-dire lycée, CES, COG?
Non, évidemment, non, c'est moins étendu. Il y a moins de moyens Vous voyez. Et ah, si, maintenant, il y a des lycées techniques privés, vous voyez, qui sont peut-être même plus forts que certains lycées publics. Et puis alors, vous avez même des centres d'apprentissage, privés. Oui.
Mais en principe, il y a une gamme moins étendue de possibilités. De matière,
pas absolument, de cours, non, parce que non, ils sont rassemblés en centre, et si vous aimez, il n'y a que quelques facultés privées, la faculté de Lille, la faculté d'Angers,
oui.
Et il n'y en a pas beaucoup, mais celles qu'il y a, c'est des facultés qui sont à la hauteur. Quoi.
Oui.
Et ils ont groupé leurs efforts pour en faire moins, et ce qu'ils font, c'est absolument valable. Oui, ça je pense que...
Et pourtant, les diplômes, les examens sont des examens d'État.
Toujours, ont toujours été des examens d'État. Ça a toujours été des examens d'État. Et depuis 2 ans ou 5 ans, les professeurs sont payés comme les professeurs du collège public.
Oui, ils sont obligés d'avoir les mêmes diplômes.
Ils sont maintenant obligés d'avoir les mêmes proportions.
Oui.
Parce qu'avant, on pouvait prendre n'importe qui pour enseigner, il n'y avait pas de contrôle. Maintenant, il y a les mêmes contrôles d'inspecteurs et tout, comme dans les écoles privées, publiques.
Oui.
Et s'ils veulent survivre, ils sont obligés de se mettre à comme tout le monde, ça, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi ils arrivent, ceci, plus leur aisance, plus leur personnalité. Vous savez, il y a certains prêtres qui sont... Il n'y a pas beaucoup de prêtres, mais enfin, il y a certains prêtres qui sont quand même des personnes extraordinairement intelligentes et posées et tout. Tout ça donne aux enfants quelque chose qu'il n'y a pas dans les écoles publiques, vous voyez.
Et pour l'instruction religieuse, est-ce qu'il y a des cours ou est-ce qu'il y a des heures où on fait de l'instruction religieuse dans les écoles
privées? Dans les petits, oui.
Dans les petits, dans les grands. Nous, on connaît assez bien la question parce qu'il a son frère qui est à Saint-Grégoire, à Tours. Il t'a dit que l'année prochaine, les cours d'instruction religieuse seront obligatoires. Il y aura même des examens et ça comptera dans leur moyenne trimestrielle.
Oui, mais c'est...
Maintenant, ça devient comme ça. Avant, il y avait eu un cours d'instruction religieuse, mais il n'y avait pas de composition. Alors que maintenant, oui, ils auront des compositions et des notes.
Ah.
C'est normal, d'ailleurs.
Moi, je sais dire.
Oui.
Oui, fait. Oui. Alors que dans les lycées, on a bien des cours d'instruction, c'est facultatif, on y va ou on n'y va pas. La plupart du temps,
L'instruction religieuse a évolué depuis.
Oui, c'est différent.
Vous voyez, quand j'étais dans les collèges, enfin au collège dans Notre-Dame-des-Alpes à Blois, avec mon frère cadet, on avait de l'instruction religieuse qui était le catéchisme. Et maintenant, c'est une conversation, c'est avec des professeurs, puis c'est presque de la sociologie ou des choses comme ça, vous voyez, pour les grands élèves. Quoi,
oui.
Qui... C'est différent de... Ça a évolué nettement, quoi. C'est des gens qui connaissent très bien tous les problèmes actuels, vous savez. C'est pas parce qu'on est dans une école privée, et c'est pas parce que c'est des curés. Ils vous parlent des problèmes, de tous les problèmes actuels, avec une égale aisance des autres professeurs.
Et les manuels pour les matières autres que la religion,
oui.
Est-ce qu'ils sont différents dans les écoles libres, dans les écoles privées?
Les manuels, les professeurs.
Oui, par exemple, manuel d'histoire, manuel de géographie.
Oh non, c'est pareil.
C'est pareil que dans les écoles publiques.
Ah, oui, c'est même pareil. Oui. Il n'y a pas de différence. Chaque professeur choisit son manuel, bien sûr.
Oui.
C'est pareil.
Oui. Oui. On va avoir du bon français.
Non, c'est exactement la même chose maintenant.
Oui.
D'ailleurs, les écoles privées, je pourrais vous sortir une petite anecdote.
Oui.
Monsieur Fouché, Christian Fouché, ministre de l'Éducation nationale, un jour en face à face, vous connaissez l'émission Face à face à la télévision française, il était avec des journalistes communistes, plusieurs, enfin il y avait toute la gamme. Et le thème était justement l'enseignement. Et puis la critique évidemment des journalistes communistes était de laisser survivre ces écoles privées. Actuellement, tout le monde dit que les écoles privées devraient disparaître. Enfin, tout le monde, c'est l'extrême gauche, dit Alors, au beau milieu de la conversation, il a été lancé une vanne à M. Fouché. Le communiste lui a demandé pourquoi il parlait tant des écoles publiques tout, et pourquoi ses enfants étaient dans les écoles privées. Alors, vous savez, c'est caractéristique. Donc des gens comme ça savent très bien que de passer quelque temps dans les écoles privées, ça donne, pas obligatoirement, hein, mais à quelqu'un qui est plus réceptif, ça lui donne quelque chose de plus.
Une meilleure éducation, une meilleure éducation.
Ah, oui. Comment est-ce que vous distinguez entre éducation et enseignement?
Bien, l'enseignement, c'est ce que vous apprenez sur les livres.
Oui.
Et l'éducation se traduit par la personnalité et par la présentation.
Le savoir privé,
vous
savez. Je vous ai posé la question parce que les deux mots sont traduits par le même mot en anglais.
Enseignement et éducation.
Oui, enseignement et éducation se traduit par education.
Oui. Et l'éducation pour nous, c'est.
Culture,
C'est d'un côté, non, c'est pas
non, pas la culture générale, non.
Mais l'éducation, c'est la façon de se présenter et la façon de passer partout.
Oui, c'est,
c'est la façon de pouvoir aller n'importe où, avec des gens même très haut placés.
Oui.
Vous voyez, c'est la façon de passer. Alors que dans des écoles publiques, il n'y a rien. Il n'y a rien de spécial dans le sens de l'éducation. L'élève est laissé, on le laisse absolument libre de choisir, de dire ce qu'il pense, de faire ça ou de faire ça. Les professeurs n'en ont absolument rien à faire. Alors que là, ils sont guidés, ils sont surveillés et ils sont obligés de se tenir de telle façon. Par exemple, mon frère ou également le petit-fils de madame, c'est-à-dire le fils de mon patron, est dans une école comme ça, en Orléans. Eh bien, mon frère n'est pas en cours sans être en cravate, voyez. Jamais de pull, toujours la veste, toujours tout.
Alors, jamais le droit de se mettre en chemise,
oui,
dans les cours.
Oui. Ces élèves sont habitués à une tenue. Vous avez dans les écoles publiques, par exemple, en France, comme vous devez voir chez vous, des filles qui viennent avec les mini-pulls, vous voyez. Alors que là, mon frère est dans une école où il y a également des filles, bien, il y a la tenue, il y a le tailleur, pas de pantalon. Alors ces gens, quand ils arrivent dans la vie coutumière, ont quelque chose de plus.
Est-ce que vous comptez envoyer votre fille dans une école privée?
Pas spécialement, non.
Non.
Si elle peut y faire un petit stage, oui. C'est...
Oui.
Il faut les deux, attention. Ouais.
Il faut les deux. Alors
pourquoi est-ce qu'il faut
l'école publique? Alors nous avons parlé jusqu'ici.
Pourquoi est-ce qu'il faut l'école publique? Ben, l'école publique, ça vous fait voir tout le monde. Ça vous fait voir le monde tel qu'il est.
Ah oui.
Plus que.
Vous savez, Parce que moi je trouve que dans une école privée, les enfants sont un peu protégés quand même.
Oui.
Ah oui.
Beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus soutenus d'ailleurs, même pour passer leurs examens. Ils n'ont pas à lutter comme les autres enfants pour avoir une place.
Ah oui.
C'est tout à fait différent. Comme ils sont plus nombreux, on s'en occupe beaucoup mieux. Alors qu'il faudrait qu'ils arrivent à travailler par eux-mêmes, tout seuls, comme font les autres dans les écoles publiques. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans une école privée, on vient vous le dire, alors que dans une école publique, on vous laisse et puis l'enfant en redouble. C'est souvent comme ça.
Mais pour revenir à ces questions d'éducation, ces questions, n'est-ce pas, aussi de la famille, n'est-ce pas, pour enseigner l'éducation, n'est-ce pas?
Ah, mais disons qu'il y a 20% qui est, enfin 20 ou 10% qui est dû à l'école, puis le reste c'est la famille qui fait quand même tout, hein.
Oui.
Il ne faut pas dire que c'est seulement l'école qui... C'est ça, il est certain que des personnes qui sont pas certaines personnes qui passent que dans les écoles publiques sont capables d'avoir la même éducation et la même personnalité que les autres. Il faut pas être absolu, quoi. Il y a une part des choses, hein. Et puis l'école publique elle est bon aussi, enfin je pense, pour que vous voyez tout, vous voyez du plus malheureux au plus riche, quoi. Vous allez vous côtoyer toutes les personnes. C'est normal, c'est tout le monde.
Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il y ait ce mélange social alors?
Parce que si vous vivez jusqu'à 19 ans sans avoir ce mélange social et qu'après vous les retrouvez et vous êtes complètement dépassé, et j'estime que l'enfant qui était un jeune homme qui était jusqu'à 20 ans sans le mettre en face des réalités, eh bien c'est le laisser désarmé. Vous comprenez? Alors, il faut au moins lui montrer tout ce qui existe. Enfin, je pense que c'est comme ça. Vous ne pouvez pas laisser l'éducation, la jeunesse, c'est les préparer à la vie plus tard. Donc si vous ne leur montrez pas tout, c'est pas la peine d'élever les enfants.
Est-ce que vous croyez que les différences sociales dont vous avez parlé sont plus marquées maintenant qu'autrefois ou moins marquées? Oui.
Sont plus marquées.
Oui, plus marquées, pourquoi?
J'ai l'impression, c'est une impression personnelle, mais enfin de beaucoup de personnes, j'ai l'impression que la France actuellement est en train de se diviser en couches sociales beaucoup plus marquées qu'il y a une vingtaine d'années. On arrive à ressembler, si vous voulez, beaucoup plus aux pays latins, du très riche et du très pauvre.
Et comment est-ce que cela se fait?
Ça, c'est une question politique et financière. Ça, c'est absolument... C'est irrévocable, ça marche comme ça.
Ah oui.
Enfin, c'est une impression que j'ai, vous voyez. Mais c'est presque certain. Je ne connais pas du tout l'Angleterre, vous voyez. Je connais un peu l'Allemagne. Et il est certain que les Allemands sont d'une couche sociale beaucoup plus régulière qu'en France. Vous voyez, il y a 10 ans ou 15 ans, on parlait du français moyen. Mais ce français moyen tend à être séparé de... Si vous aimez, il y a toujours le français moyen, mais il y en a qui sont montés très haut, certainement, actuellement. Ça, c'est caractéristique de notre régime actuel, social et économique. Hein.
Ah oui.
C'est une impression personnelle, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui tendent à...
C'est un manque de direction une espèce de politique délibérée. C'est-à-dire, c'est une politique qui ne fait rien et qui laisse les différences apparaître, ou est-ce que c'est une politique délibérée
qui cherche à faire apparaître ces différences? Oui. Non, pas chercher à faire apparaître ces différences. Mais si on n'aide pas le français moyen, si dans les conditions actuelles où c'est quand même très dur, vous devez vous en rendre compte chez vous comme chez nous, s'il n'y a pas un soutien à apporter aux petits Français, et il est certain que ça se sépare beaucoup, beaucoup plus vite qu'autrement. Vous voyez, je trouve qu'actuellement c'est caractéristique en France.
Est-ce qu'on peut passer d'une classe à l'autre facilement?
D'une classe à l'autre? Comment?
De passer d'une classe sociale, disons.
Parce que
ça, c'est autre chose, je ne pense pas. Je pense que ce sera de plus en plus difficile.
Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui sépare les couches? Et qu'est-ce qui fait
maintenant
difficile de... Oui. Qu'est-ce qui fait difficile de...
Ah
oui. Oui, alors allons-y.
Nous avons passé 15 jours en Allemagne l'année dernière, chez des Allemands... Une dame était secrétaire, le mari était peintre en bâtiment, et d'autres personnes qui étaient des commerçants, vous voyez, eh bien, ils avaient tous un meuble magnifique avec chaîne stéréo, avec tout, et caméra, vous voyez, tout. En France, ça ne se trouve pas. Ça se trouve, mais pas dans cette classe de société. Et ça, je trouve que c'est caractéristique. Vous le voyez également dans les voitures, vous le voyez partout. Et le passage d'une classe dans l'autre, l'instruction ne suffira plus pour permettre ce passage d'une classe dans l'autre. Vous voyez?
Ah oui.
Si vous aimez mieux, le français très instruit et tout sera dans la classe supérieure au point de vue connaissance, au point de vue humain, et au point de vue social, au point de vue avantage. Au point de vue possession, il ne sera pas dans cette classe, il sera toujours dans la classe, il aura toujours son appartement en HLM, mais enfin, vous voyez, il ne passera pas dans cette classe où les gens ont des grosses voitures, des avions, vous voyez, ce genre de...
Est-ce que la propriété compte toujours? Avoir une propriété?
Oui, peut-être même de plus en plus.
On sait qu'il en fait.
On voit les gens se saigner pour avoir quelque chose. Ça, c'est actuellement, il y a une fuite des gens vers la propriété, mais enfin, évidemment, la propriété est en immeuble, mais les gens préfèrent sortir une sorte de retour à la terre. De retour, non. Vouloir avoir sentiment sur terre, vous voyez.
Oui.
C'est caractéristique actuellement.
On pourrait peut-être passer à la politique.
Bien sûr.
Si ça vous intéresse. D'abord, des questions qu'on avait préparées, puis on va voir ensuite quels sont vos vrais intérêts. Est-ce que vous pourriez nous dire comment il se fait qu'il y ait deux tours pour les élections législatives en France?
Qu'il y ait deux tours?
Oui.
Parce que le premier tour, c'est que enfin, ceux qui ont plus de 50% qui passent, qui ont la majorité absolue. Et le deuxième tour, c'est la majorité relative, c'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si les termes sont exacts, parce que c'est assez ambigu, mais enfin, la première fois, c'est celui qui a plus de 50% des voix qui passe, et la deuxième fois, c'est celui qui en a le plus, qui est 30% des voix, du moins que celui qui en a le plus, c'est celui qui passe. C'est pourquoi il y a deux tours.
Comment est-ce qu'on fait son choix pour le deuxième tour?
Pour le deuxième tour?
Oui.
Alors là, je pense que c'est le même genre que le premier tour, seulement on choisit dans ceux qui restent. Parce qu'il y a une sélection quand même entre le premier et le deuxième tour, une sélection entre les candidats.
Oui.
Et comme il y a le désistement de l'un pour l'autre, donc on est amené à conserver celui qui reste. Si celui pour lequel vous avez voté la première fois est éliminé au premier tour, eh bien, au deuxième tour, vous prendrez celui que vous estimez le plus proche, celui qui dans ceux qui restent vous plaise, quoi, puis c'est tout.
Je crois que des fois, celui qui désiste recommande à ses électeurs
de
voter pour tel ou
que... Bien sûr, mais ce n'est pas absolument suivi.
Non.
C'est pas suivi à 100%. On n'est pas dans un régime totalitaire ou assez instruit politiquement pour suivre absolument les indications. Vous voyez, ça, c'est un régime soviétique qui dit si j'ai eu 2000 voix au premier tour, si je dis je me désiste pour l'autre aura les 2000 voix. C'est pas comme ça en France, heureusement.
Mais lorsque vous votez pour un député, qu'est-ce que vous attendez?
Qu'est-ce qu'on attend? Vous savez, au point de vue politique, alors là, je peux vous dire tout de suite que on vote pour lui parce qu'on pense qu'il fera quelque chose, mais ce qu'on attend, qu'est-ce qu'il peut faire d'abord? Vous voyez, on attend ce qu'il peut faire. Il fera ce qu'il peut ou il fera rien, vous savez. Alors là, on n'attend pas grand-chose, disons.
Alors, est-ce qu'il est important en tant qu'individu ou en tant que membre d'un parti?
Alors, je crois qu'en France, quand même, il y a une grosse majorité qui vote pour l'individu.
Ah oui?
C'est pas le parti, c'est l'individu. C'est peut-être regrettable, c'est peut-être contraire à la politique, mais c'est pas de la politique, vous voyez, de voter pour l'individu. Mais... c'est notre mentalité. Il y a que les partis extrémistes, extrême gauche et extrême droite, qui vont voter pour le parti, mais qui c'est tout. Vous mettez n'importe quelle âme qui se présente, le Parti communiste, eh bien, ils voteront pour cette âme, même s'ils savent qu'il ne peut pas parler. C'est comme ça, c'est l'ordre. Tandis que ça se trouve également à la droite, extrême droite. Et extrême, alors vraiment, vous savez, c'est pas un centriste, mais oui, c'est pas des mouvements qui ont quoi quelques mille adhérents en France, vous voyez, très très peu. Il y a quelques très petits mouvements extrême droite, alors très durs.
Oui.
Alors cela, vous mettez n'importe qui, c'est pareil. Mmh.
Cet individu donc, en tant qu'individu,
oui.
Est-ce que vous attendez quand même de lui qu'il fasse quelque chose pour la ville ou pour... pour la politique, quoi.
Alors, pour
l'idéologie.
Pour la ville, vous savez, actuellement, les gens n'ont pas de moyens. Nos députés n'ont pas de moyens de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on attende d'eux? Enfin, moi, c'est ce que je pense. Il y en a qui ont des moyens de faire quelque chose.
Oui.
Il y en a qui font quelque chose. Mais il y en a tellement peu qui ont les moyens de faire quelque chose. Alors, on vote pour ceux qu'on pense qui pourront faire quelque chose.
Oui.
Mais je crois que les... Il y a les députés actuellement, oui, mais il y a un courant parallèle qui est très fort également et qui fait pas absolument que ces députés soient capables de faire quelque chose.
Et
quelle est la différence, pensez-vous, entre la droite et la gauche?
C'est une différence qui... Il n'y a pas de différence, l'extrême droite, c'est... ça se rapproche de l'extrême gauche. Actuellement, on met des étiquettes, c'est tout. Mais disons que... Pour moi, la plus grande des différences est une question religion. La gauche supprime absolument toute idée religieuse, toute idée de personnalité, voyez, alors que la droite tient quand même compte de ses religions. Alors je suis catholique dans ce sens, donc on n'est plus tenté d'aller vers la droite. Voyez. Mais vous savez, la gauche, disons qu'elle se dit aller vers le pauvre, vers le petit, mais vous savez, des gens de la gauche qui ont des propriétés, ils sont aussi durs que les autres, et ils agissent exactement pareil, il ne faut pas croire. La différence entre la gauche et la droite, alors là, on pourra en parler des heures et des heures.
Oui, bien sûr. Mais vous semblez dire qu'il y a actuellement très peu de différence en matière de politique véritable. C'est ça que vous
dites? Non, il n'y a pas... actuellement, je considère le gouvernement actuel comme un gouvernement relativement centriste.
Oui.
Et il ne faut pas dire que c'est un gouvernement de droite. D'ailleurs, lui se place bien dans un gouvernement centriste. Centriste de droite, mais enfin, quand même, c'est des gens qui sont ni à gauche, ni à droite. La majorité des députés sont des gens qui pourraient aussi bien être socialistes, qui pourraient être UDR, comme MRP, comme tout, vous savez. Alors, qu'est-ce qui reste de la gauche à la droite? Il reste un tout petit noyau d'extrême gauche et d'extrême droite. Vous voyez? Alors, ces extrêmes gauches et ces extrêmes droites ont un peu les mêmes envies, certainement. Ou alors des envies tout à fait opposées. L'extrême gauche voudra tout le monde, tout partager, tout ce qui existe. C'est d'ailleurs le but de la gauche, vous savez, c'est de prendre ce que les autres ont, mais de ne pas s'en servir par la suite. C'est exactement ce qui s'est passé dans les pays des colonies. Les gens ont pris ce que les colons avaient, mais maintenant ils l'ont pris, puis c'est tout. Vous voyez. Et notre gauche à nous est pareil. C'est notre extrême gauche. Hein. Ils pensent qu'en prenant ce que la droite est là, ils auront des belles voitures, ils auront des belles maisons, mais c'est tout. Ils sont incapables d'aller plus loin. Alors que la droite, quand même, elle a du souffle, elle a de l'argent, et c'est quand même quelque chose qui est plus fort. Et... Mais enfin, les désirs de l'un et de l'autre actuellement, je sais pas, enfin, moi j'entends par extrême gauche et extrême droite, c'est vraiment les extrêmes. Hein. Je n'entends pas que un MRP ou un gaulliste actuel, c'est pour moi un gaulliste presque un centriste.
Oui. Est-ce qu'il y a une tendance aussi dans la politique actuelle vers une espèce de, je suppose, technocratie, c'est-à-dire une diminution des couleurs politiques et une augmentation d'administration, de façon de gouverner le pays, qui est plutôt une question d'efficacité que de politique?
Actuellement, il n'y a rien du tout.
Ah oui.
Disons qu'il y a un régime très fort, actuellement, qui fait ce qu'il peut,
oui.
Vous voyez, qui essaie de maintenir et qui essaie de continuer ce qu'il a commencé, mais vous savez, depuis un an ou deux, il y a quand même, on ne sait plus de tout où on va. Enfin, moi, c'est mon impression, je trouve que on est à la merci du jour au lendemain d'un gros chambardement, il n'y a pas de problème. Faut bien dire, au point de vue technocratie, oh, c'est toujours pareil. Hein. Toujours les gens qui sont dans les bureaux, qui vous conseillent une chose et puis qui n'envoient pas d'application. Et puis ça ne changera pas. Ou alors, à moins d'un gros changement de fond, une vague de fond, il suffira. Il y aura une modification, sinon ça ne changera pas, ça restera toujours comme ça. C'est des impressions, mais vous savez, on ne sait plus, actuellement on ne sait plus tellement où on va, vous savez, il faut pas. Il y a tellement de personnes qui ne savent plus, qui attendent. C'est caractéristique de la France actuelle.
Est-ce qu'on pourrait vous demander comment vous expliquez-vous personnellement les événements de mai dernier?
Les événements de mai dernier, alors là,
vous savez qu'on a...
C'est comme Bandit qui est en Angleterre et puis qui a...
Oui, mais enfin, comme Bandit, ça ne remplace pas. Devrions venir, nous aurions dû venir en France en juin dernier. Et nous n'avons pas pu...
Oui, on ne sait pas. On ne sait pas, il y a beaucoup de sons de cloche. Il y a certainement un des principaux, une des principales raisons de ça, c'est De Gaulle qui a essayé de culbuter la livre sterling, enfin de faire la dévaluation de la livre sterling et du même coup la dévaluation du dollar. Et depuis qu'il est au pouvoir, il a amassé de l'or pour pouvoir faire ça, vous comprenez? Et il est presque arrivé, hein, puisqu'il a réussi à obtenir, enfin à pousser pour obtenir une dévaluation de la livre sterling. Et au moment où il était question que vous dévaluez fortement la livre sterling, Wilson a demandé si De Gaulle pouvait faire quelque chose au franc commun, vous savez. De Gaulle a dit absolument non. Et c'est le lendemain que la livre sterling a été descendue. Bon. Le dollar a tenu le coup, de justesse, il a tenu le coup. Alors, ça a fatigué De Gaulle de faire ça, point de vue argent. Parce qu'il fallait quand même qu'il arme de l'or. Et alors, après, les Anglais et les Américains ont dit, mon Dieu, on va essayer de t'en servir. Alors, ils ont cherché à mettre la pagaille chez lui. Et comme il a un certain côté, peut-être qu'ils sont en ordre apparent, c'est tout, alors ils ont réussi. Disons que c'est un retour de flamme. Il y a certainement de ça. Il n'y a pas absolument près de ça, mais il y a certainement ça. Et le mouvement a pris plus d'ampleur certainement que c'était prévu, mais il y a eu de ça, il y a beaucoup de ça. Et le franc s'est maintenu, disons qu'il s'est maintenu à ce moment-là, mais il ne se maintiendra pas longtemps. Et ce n'est pas parce qu'il s'est maintenu qu'on en est plus riche ou plus fort. Vous savez, ça ne veut rien dire.
Alors, est-ce que vous croyez que peut-être les événements de mai dernier ne sont pas terminés?
Ils sont pas terminés, ils peuvent se reproduire et ils ont toujours des conséquences. Maintenant, il ne faut pas attribuer non plus, comme on dit maintenant, c'est les événements de mai qui ont tout foutu par terre. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que ça. Il faut bien dire que c'est pas uniquement ça. C'est très facile de dire c'est les événements de mai. Hein, mais enfin, quand même, disons que ça a secoué quelque chose, oui. Mais c'est depuis ces événements qu'on fait les réformes de l'enseignement. C'est depuis mai seulement. Il y a quand même 10 ans que De Gaulle était là. Il n'a fait aucune réforme de l'enseignement.
Vous voyez, ils ont fait des réformes, oui, mais qu'ils n'étaient pas là.
Ils ont pas fait de réforme de profondeur comme la réforme actuelle. Vous voyez, disons que ça a secoué, ça a montré quelque chose en mai.
J'ai dit,
ça va marcher, que pensez-vous, la réforme de l'enseignement?
Je sais pas. Edgar Faure est un homme supérieurement intelligent, doublé de directeur Antoine qui était d'Orléans, et de l'autre, je ne sais pas comment, hein. C'est possible.
Et que pensez-vous de la participation des étudiants?
C'est pas mal, condition que ce ne soit pas des trop jeunes, et c'est pas mal, c'est possible, oui. Mais à condition de ne pas avoir des élèves de 6e qui vont dire actuellement, vous avez des collèges comme ça, où je reviens à la discipline de tout à l'heure, que demander dans l'enseignement, parce que on est des collèges des CEG, c'est comme on peut dire la foire. C'est les élèves de 6e, de 4e qui vont à des réunions de parents d'élèves et qui prennent la parole. Alors en arrivant à ce point-là, je crois que c'est un peu léger. Maintenant, que ce soit des élèves de faculté ou des élèves de terminale ou des élèves de seconde, 3e même qui donnent leur avis, à condition que ce soit un avis posé et calculé, c'est possible. Ces jeunes ont des idées, certainement. Hein, y a des jeunes ouvriers qui disent bien ce qu'ils pensent, je ne vois pas pourquoi pourraient pas en dire autant. Maintenant, il faut quand même que l'autorité des recteurs et tout soit là, parce que disons que les élèves peuvent donner un avis, mais pas un ordre. C'est tout ça, c'est ce que je pense, hein, c'est pas...
Oui. Enfin, vous remarquez qu'on a les mêmes difficultés, enfin les mêmes troubles, disons, oui. Peut-être moins bruyants, mais les mêmes troubles.
Très bon, certainement, c'est pas typique à la France. Hein.
Non.
Maintenant, il y a une chose qui m'ennuie, enfin, que je trouve dommage, c'est que ces élèves qui donnent leur avis, c'est seulement une minorité.
Oui.
Et, alors qu'il y a une majorité de gens honnêtes et travailleurs et pondérés qui pourraient donner leur avis. Et c'est ça. Alors peut-être que dernièrement, j'ai remarqué, avec les élections des élèves, vous savez, peut-être que là, ça va changer quelque chose. Parce que du moment qu'ils votent à bulletin secret, ils peuvent aller voter, vous voyez. Ils ne sont pas obligés de participer à des réunions bruyantes et politiques. Donc, tous les modérés vont aller participer. Oui, ça, c'est... De toute façon, il n'y a que quelques années, dans quelques années, on pourra voir. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut une stabilité. Si du jour au lendemain, De Gaulle disparaît, si c'est un gouvernement d'un côté ou de l'autre, Edgar Faure peut être viré et vous aurez n'importe qui à la place, vous voyez. Il faudrait qu'il y ait 4 ou 5 ans de cette politique pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et il a un excellent départ. Il a un excellent départ et il a surpris beaucoup de personnes, Edgar Faure. Certainement.
Oui. Est-ce que vous croyez qu'il faut remplacer De Gaulle par un autre De Gaulle?
Par un autre De Gaulle, c'est pas la peine.
Enfin, par un autre homme fort, c'est ça que je voulais dire.
Il est certain qu'une personnalité forte est nécessaire, certainement. Mais enfin, il y a beaucoup de pouvoirs qui sont quand même amassés dans sa personnalité. Il n'y a pas assez de possibilités de discussion actuellement. Oui. Disons que c'est un homme pas si extraordinaire qu'on le dit, mais enfin qui a une grande place. Mais il a trop de... Enfin, en un sens, c'est presque trop totalitaire. On est trop totalitaire. On peut rien dire, on peut rien faire. C'est absolument ce qu'il veut, qui est fait. La valeur de la politique, c'est comme tout, c'est la discussion, c'est les idées de chacun. Un homme, aussi fort soit-il, ne peut absolument pas. Ou alors, on s'en va vers... Il y a une stabilité, oui, le temps qu'il y ait. Mais une fois qu'il n'y ait plus, la stabilité n'existe plus.
Oui. Et sa politique vis-à-vis du marché commun?
C'est une tête de lard vis-à-vis du marché commun. Disons que si le marché commun ne se fait pas, c'est de sa faute. Certainement, parce que... Il n'a pas de raison d'empêcher les Anglais de rentrer dans le marché commun. Il en a eu un petit peu au début. Au début, vous n'avez pas voulu pénétrer au moment où on vous l'a offert. Et donc, il était un peu normal qu'il vous renvoie la balle, qu'il vous dise, messieurs, nous vous avons demandé, vous n'avez pas voulu maintenant. Mais enfin, à l'époque actuelle, son idée pourrait être révisée. Hein, il est pas... faut pas exagérer quand même. Et plus, et surtout que c'est arrivé à un moment critique, plus il attendra pour, plus il empêchera que vous rentriez, plus il met le bazar avec les autres, voyez. Alors donc, à partir de ce moment-là, s'il veut que ça existe, il faut prendre une solution. Mais enfin, actuellement, si rien ne se fait, c'est un peu de sa faute. Il a voulu beaucoup qu'on fasse le marché commun avec lui comme grand patron. Il n'est pas si fort que ça quand même. Et on n'a pas les moyens en France de se permettre ça. On n'est pas si supérieur à... On est d'abord pas supérieur à l'Allemagne et ni à l'Angleterre.
Est-ce que vous croyez que la France a profité de l'existence du marché quand même?
Ah non, pas du tout.
Pourquoi?
Elle n'a pas profité du tout parce que... au début du marché commun, on a dit aux Français... vous êtes les plus forts, tout le monde disait en France, vous êtes bons, tracassez-vous pas, quand le marché commun arrivera, c'est vous qui allez... Tous les Français se sont endormis, et on dit, nous, nous sommes les rois. Les Allemands et les Hollandais, tout ça, ont travaillé, puis maintenant, on est dépassés, on est bien dépassés, croyez-moi.
Oui, mais il faut dire que la France est plutôt un pays d'origine agricole, quoi.
Enfin, c'est... Oui, mais comment on détruit cette agriculture, qu'est-ce que vous voulez faire? Ne croyez pas que l'agriculture en France n'a plus de moyens. Quand on voit les moyens qui sont mis à disposition des agricultures allemandes, hollandaises et italiennes, parce que les Italiens c'était des enfants de cœur il y a 10 ans, c'était des malheureux, mais regardez-les maintenant, vous savez, ça, on n'en a pas profité et au contraire, on s'est on n'est pas prêt du tout et on est très mal parti. Parce que actuellement les barrières douanières ont été levées, mais pas du tout pour la France. Vous ne croyez pas que ça a été levé, on a mis d'autres taxes et puis c'est exactement pareil. Et les autres admettent ça.
Et la question de TVA qui est uniforme.
Eh bien c'est justement pour contrebalancer cette barrière douanière. C'est tout. Enfin, ça je ne suis pas tellement fort là-dedans, la TVA, hein, c'est spécial. Mais enfin, disons que la raison est là. On a mis la TVA en disant ce sera plus une barrière douanière, c'est une autre barrière douanière. Comment pensez-vous que Ford arrive malgré tout à mettre des voitures comme vous mettez, Ford anglais et Ford allemand, arrive à mettre des voitures sur le marché français qui sont des prix tellement bas à côté de nous, avec les barrières actuelles? Si du jour au lendemain on soulevait tout, mais alors là vous amèneriez des voitures à moitié prix de nous. Et je crois qu'on est mal parti. Et justement, maintenant, s'ils se montrent de plus en plus durs, c'est qu'ils se rendent compte de ça. Vous voyez, alors.
Vous voyez, les agriculteurs anglais craignent beaucoup l'entrée dans le marché commun à cause de la vigueur de l'agriculture des pays du marché commun.
Oui, mais pas à cause de la vigueur de l'agriculture française. Parce qu'il n'a pas de vigueur.
Mais ils ont peur des prix. Ils ont peur des prix français.
Oui, ils ont peur des prix français, mais. C'est pas des prix français qu'il faut avoir peur. C'est. Oui, si on veut.
C'est parce que toi, tu vois tes prix à l'intérieur du pays, parce que tout est plus cher. Quand tu vas en Allemagne, regarde le beurre comme il n'est pas cher. Tous nos produits français sont bien moins chers que chez nous.
Et
chez
nous, c'est très cher. Les prix français sont au même prix que les autres.
Sont plus élevés que les autres. Alors, ce qu'on craint, c'est que les prix en Angleterre sont
augmentés
et que. Qu'on vendra pour cela moins et que les conditions des agriculteurs vont diminuer, donc vont s'empirer.
Oui. De toute façon, je ne sais pas actuellement. Vous voyez, l'Angleterre, je ne connais pas tellement ses possibilités agricoles et tout. Je ne connais pas parce que justement, ils n'ont pas été mêlés au marché commun depuis la création du marché commun.
Est-ce qu'il y a des subventions aux agriculteurs, enfin pour les prix surtout?
Ah ben actuellement il n'y a pas de subvention, il y a de l'argent qui est donné lorsque les gens ne peuvent pas vendre.
Ah.
Voilà. Alors si vous vendez normalement un kilo de pommes 50 centimes, eh bien s'il y en a, je prends les chiffres, 1000 tonnes qui sont vendues, il y en a 2000 qui ne sont pas vendues, on va les jeter dans les carrières, mais l'agriculteur on lui donne 20 centimes, vous voyez? Pour, au lieu de 40 centimes qu'il aurait vendu normalement, on lui donne 20 centimes pour qu'il ne mange pas tout, pour qu'il ait moins ses frais de payer. Voyez. Mais comme le prix de revient du kilo de pomme est de 60 centimes, il y a des conditions de vie.
Oui.
Et je crois que l'Angleterre n'a pas besoin d'avoir peur de
la
production française, je crois, vous savez.
On peut acheter en Angleterre le beurre de la Normandie, par exemple, à peu près à 2 francs 20. La livre.
Oui.
Combien est-ce qu'il faut payer ici pour la livre. Français?
La livre.
La livre.
La livre.
Oui, mais c'est normal.
Mais nous, c'est
280
ou 290, la demi-livre.
Oui.
250 grammes.
Oui.
C'est même pas. Tous ces prix ne veulent rien dire, à partir du moment où c'est des prix de politique, vous voyez. On fait exprès de vendre, on vend à la Chine du quintal de blé à 1000 francs le quintal, vous voyez, bah, ça ne veut rien dire, on mange de l'argent dessus, mais c'est pas normal.
Non.
Alors que si toutes les barrières étaient levées du même coup, alors là vous pourriez voir tout passer d'un côté à l'autre. Mm. Et comme les gens, en fait je ne sais pas tellement vos prix de revient et tout, mais je sais que l'Allemagne ou l'Italie, il y a des prix de revient qui sont tellement bas, et du jour au lendemain ils pourraient baisser leur prix, puis nous on est coincés.
Oui.
C'est certain.
Oui.
Et on s'enterre très vite. Et c'est peut-être pour ça que maintenant il est de plus en plus réticent pour faire le marché commun. Et j'ai connu une réflexion d'un Allemand qui est 100% pour le marché commun. Il dit même s'il fallait supporter De Gaulle comme chef, il dit il vaudrait mieux que le marché commun se fasse. Parce que plus on attend, plus c'est. que c'est mauvais, quoi. On pensait bien que c'est ça, la situation se détériore. Hein.
Les liens politiques ont été beaucoup retardés aussi, n'est-ce pas, les liens politiques entre les pays du marché commun, entre les six, qu'on allait établir, ont été retardés. Est-ce que vous pensez...
Qu'on allait établir comment? Que les six allaient établir? Que les six acteurs allaient établir?
Oui, c'est ça.
Et ils ont été retardés par ce désir de supériorité du gouvernement français.
Est-ce que vous pensez, vous, personnellement, que des liens politiques plus étroits, une espèce de fédéralisme de l'Europe, serait une bonne chose?
C'est possible, mais vous avez les... Tant qu'on ne sera pas absolument d'accord entre nous, les Américains sont là et ils nous empêchent de faire ce fédéralisme. C'est normal, ils essaient de conserver leur puissance en Europe. Alors, en soignant beaucoup l'Angleterre, en soignant beaucoup l'Italie ou l'Allemagne, eh bien, ils donnent du souffle à ces pays et ils leur empêchent, c'est mieux, donnant, de faire des liens très serrés. Bien sûr, ce serait très bien fédéralisme, certainement, mais il faut faire abstraction de tellement de choses. Hein, pour faire ça, il faut d'abord faire un franc à tout le monde, ou un franc ou un Dutch ou n'importe quoi, mais il faut faire quelque chose. Il faut tellement passer par-dessus de barrières que c'est pratiquement pas possible.
Mais on a parlé du défi américain, n'est-ce pas?
Oui,
est-ce que vous croyez qu'il y a à craindre l'influence américaine?
Oh, oui, bien sûr. C'est pas l'influence qui est à craindre, c'est la force qui est à craindre. Il est évident que si nous continuons comme ça à patauger pendant 10 ans ou pendant 15 ans, quand nous arriverons à faire quelque chose, mais il sera trop tard. Vous pensez bien que les capitaux américains arrivent à flot chez nous, non seulement les capitaux, mais les méthodes de travail et tout, et plus ça va, plus ils tiennent l'Europe comme ça. Alors, on peut faire quelque chose, on peut s'en tirer, mais il ne faut pas attendre. Mais plus on attend... plus ça devient catastrophique. Et plus on attend, on ne devrait pas attendre seul. Et l'Angleterre a certainement des possibilités. Et si elle venait avec nous, ça ferait encore un élément de plus. Et un élément quand même assez valable. Mm-hmm. Parce que l'Angleterre, c'est quand même pas un petit pays. Elle a des moyens.
Viens, attends. Est-ce qu'on pourrait nous arrêter là, hein? Alors, si vous voulez répondre tous les deux, peut-être. Mm-hmm. Et moi, je noterai...
Je noterai madame et vous.
Et je mettrai vous-même, monsieur.
Merci.
Oui. Y a-t-il chez vous un dictionnaire?
Oui.
Deux dictionnaires.
Oui.
Combien?
Il y en a un.
Si vous peut-être donniez les noms. Si vous donniez les noms.
C'est du Larousse.
C'est le petit Larousse. Petit Larousse illustré.
C'est
long.
Oui.
Un volume.
Oui. Ah, bonjour. Un volume. Oui.
Et où est-ce que vous le gardez, madame?
Normalement, il est ici, je m'en sers ici, mais comme on a déménagé, il est resté dans les malles au grenier.
Et vous l'avez depuis quand?
Depuis quand?
C'est, oh, c'est des dictionnaires que nous avons à l'école.
Depuis l'école, enfin depuis mon entrée en sixième.
Est-ce que vous l'avez reçu comme cadeau ou est-ce que vous l'avez acheté?
Non, c'est un dictionnaire qui était à mon frère, que mes parents avaient offert à mon frère et qu'on m'a redonné après par la suite, parce que c'était moi qui m'en servais.
C'est-à-dire un héritage.
Un héritage.
C'est des dictionnaires scolaires.
Oh, c'est un petit dictionnaire scolaire, c'est pas un dictionnaire.
C'est le petit Larousse, enfin.
Oui. Oui. Vous avez d'autres dictionnaires d'un autre genre, peut-être?
Non.
Il y avait des projets, je voulais acheter le Paul Robert, je ne sais pas si vous le connaissez.
Ah oui, oui.
Mais il coûte vraiment très cher quand on veut tous les
volumes. Mais en 7 volumes.
Oui, 7 volumes. Mais alors, ils en font un plus petit. Je crois qu'il doit faire 9 ou 10 000 francs. Mais alors, c'est très intéressant, mais c'est toujours une question d'argent qui nous retient.
Oui.
Parce que le mieux, c'est le gros, et il fait vraiment très trop cher. Il fait 90 ou 100 000 francs, je crois.
Petit Robert, ça s'appelle, je crois, n'est-ce pas?
Oui, le petit Robert.
Qui se sert le plus souvent du dictionnaire dans la maison?
Personne.
Oh, si, quand même,
on ne sert pas beaucoup.
Alors. C'est-à-dire qu'on est dans, on travaille tous les deux. Alors, il y a un dictionnaire où on travaille, la plupart du temps.
Ah, oui.
On s'en sert, mais vraiment pour notre travail.
Et par exemple, combien de fois par mois est-ce que vous servez du missionnaire?
Moi, je m'en sers tous les jours.
Oui, tu t'en sers tous les jours dans ton travail?
Dans mon travail, je m'en sers tous les jours.
Moi, je m'en sers... Je m'en fais servir aux autres. quand je dis le courrier, je dis à la secrétaire, vous regarderez ces mots. C'est tout.
Et quand avez-vous regardé pour la dernière fois, madame?
Pour la dernière fois, ben, quand est-ce que j'ai... C'était vendredi. Vendredi? Oui, ben vendredi.
Oui, toi, tous les jours.
Moi, tous les jours, je m'en sers.
Et pourquoi vous regardez vendredi?
Pourquoi, hein? Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. C'était pour vérifier un mot. Oui. C'était pour vérifier. Oh, pour vérifier un mot de médecine. Ça, c'était... je ne me rappelle plus. Je ne savais même plus le mot. Comment ça s'appelle? C'est une maladie. C'est une maladie de l'anxiété. Je ne peux plus retrouver les mots.
Et quel genre de choses y cherchez-vous le plus souvent? L'orthographe ou le sens?
Le sens du mot. Le sens, le véritable sens, parce que souvent on arrive à employer des mots, c'est un sens tout à fait déformé, c'est vraiment pas le sens initial.
Et vous, monsieur?
Moi, je ne cherche pas dans les sens. Non, il faut ouvrir une parenthèse. Le travail de ma femme est très actrice. Bon, elle fait des comptes rendus, bon, donc elle... qui a besoin de donner les mots exacts, donc elle cherche dans le dictionnaire. Mm-hmm. Dans notre métier, c'est beaucoup plus technique, beaucoup moins... on n'a pas besoin de mots, on n'a pas besoin d'appliquer les mots, on se sert des mots courants, vous voyez, et je vous dis, quand il y a des mots qu'on ne connaît pas, c'est pas moi qui les cherche, c'est les personnes qui sont chargées de la rédaction qui les cherchent, vous voyez. Mais autrement, moi je ne cherche pas... Je chercherai dans un bouquin de formulaire de mathématiques et tout, je cherche, mais je ne cherche pas dans un dictionnaire de français. Et on n'a pas les mêmes besoins, ça c'est certain. C'est ça qui guide nos recherches.
Madame, est-ce que vous possédez d'autres dictionnaires du genre Larousse ménager ou médical?
L'encyclopédie de la femme.
Oui, oh, mais c'est tout à fait... Oui, c'est l'encyclopédie de la femme, c'est tout à fait différent, ça. Larousse ménager, non. Il m'est arrivé de consulter parce que mes parents en ont un, mais moi personnellement, on n'en a pas. Médical, non. La famille qui est docteur, on en a besoin. On va demander des renseignements.
Et est-ce que vous possédez peut-être un livre sur, disons, l'art de parler ou l'art d'écrire? Ou les difficultés de la langue française?
Non.
Non, je n'ai pas de...
Mais par contre, il y a un livre, là, je ne suis pas encore. Mais...
Non, nous, on a fait ça. Moi, j'ai eu certains livres se rapportant à ça quand j'ai continué des études, enfin, quand j'ai voulu poursuivre, mais c'est tout. Je l'ai regardé comme ça, parce qu'on était obligés, mais vraiment...
Je vous ajouterai une phrase à la fin. Je ne voudrais pas, c'est une plaisanterie, je veux dire une plaisanterie, mais nous n'avons plus besoin de tout ça. C'est pas vrai, non. Je ne pense pas. Et certaines personnes pourraient vous dire. Non, c'est pas sûr.
Non, là, on comprend. Est-ce que vous faites des mots croisés?
Non.
Chut. Alors,
qu'est-ce que vous pensez du franglais?
Du franglais? Bon, j'en ai vaguement entendu parler, mais c'est pas...
Bon, on en emploie,
beaucoup.
Oui, dans le langage. On emploie des mots anglais.
Oui, on emploie.
Je pensais qu'ils sont passés dans le vocabulaire français.
Oui.
Le franglais, je vois pas la nécessité, je sais pas.
Vous seriez pour ou contre ou indifférent?
Oh, ça m'est égal. Ça m'est égal, mais je pense quand même que il faut laisser les langues pures et ne pas faire un mélange...
Oui, moi aussi. Je trouve que le français doit rester le français.
Oui, je crois. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous direz après.
Je vous dirai après, oui. C'est ça, oui. Et bien sûr. Y a-t-il des différences, selon vous, dans la façon de parler français entre les gens appartenant
à des milieux sociaux différents.
Oui, bien sûr.
Ah oui. Oui, oui.
Est-ce que ces différences sont très grandes ou grandes ou...
Assez grandes.
Assez grandes.
Oh, oui. Oui.
Et en quoi consiste-t-elle surtout?
Je ne sais pas, il y avait d'abord une aisance dans les phrases qui est tout à fait... Là, je ne sais pas, ils ont des phrases beaucoup plus recherchées.
Oui. Un vocabulaire plus recherché.
Oui, plus recherché.
Puis alors,
Les mots qu'ils emploient sont beaucoup plus exacts. Ils arrivent vraiment à définir bien ce qu'ils veulent dire. Alors que, je ne sais pas, moi, chez les ouvriers, c'est assez le parler populaire.
Oui.
Un peu argotique même.
Vous notez en anglais?
Pardon?
Vous notez en français?
En français.
En français, bien. En français, c'est beaucoup plus difficile de traduire, vous savez, que de noter dans la langue dans laquelle on parle. Comment est-ce que vous expliquez ces différences?
L'éducation?
Ça ne s'explique pas, c'est normal.
L'éducation, l'instruction surtout. Oui. Quelqu'un qui a été. Qui a suivi des études supérieures parle forcément bien mieux que quelqu'un qui s'arrête au certificat d'études.
Oui, et puis alors, non seulement l'instruction, mais le contact avec les personnes. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a été un certificat d'études, et puis, de par son contact, il arrive à l'âge de 40 ou 50 ans à parler exactement comme vous comprenez. Ça dépend de son métier et de tout ça. Hein.
Oui, mais quand même, il y a son milieu qui joue.
Son milieu qui joue, son milieu d'éducation et son milieu de travail après,
oui.
qui le fait évoluer ou qui le fait rester tel qu'il était au début.
Et selon vous, les gens parlent-ils de mieux en mieux ou de plus en plus mal?
Moi, je trouve que quand même, les gens parlent mieux qu'ils parlaient avant. Dans l'ensemble, parce qu'ils ont quand même. Maintenant, la scolarité depuis longtemps est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc ils ont la possibilité de s'instruire.
C'est pas obligatoire.
Si, je trouve qu'ils parlent quand même mieux.
Je pense que vous avez des gens qui étaient à l'école, comme nos grands-parents, jusqu'à 10 ans ou 13 ans, et qui actuellement sont des gens qui parlent aussi bien que des jeunes de 18 ou 20 ans. Et je pense que. Ils allaient à l'école très peu, mais ils avaient une formation.
Parmi vos connaissances, quelle est la profession de la personne qui parle le mieux le français?
C'est certainement les avocats.
Les avocats.
Oui.
Oui.
Ou madame aussi.
Oui, les avocats.
C'est normal.
Normal.
Les professeurs de français.
Si, évidemment, les professeurs. Professeurs de français latin, vous voyez, bon, c'est des gens, mais. Les prêtres aussi, oui.
Les prêtres.
Oui. Oui.
Et comment expliquez-vous cela, que les prêtres.
Leur besoin de s'exprimer. C'est normal qu'ils ont des gens en face d'eux qui sont très riches, donc ils sont cultivés par l'information. Et puis, c'est nécessaire. Vous avez des prêtres et des pasteurs qui sont très, très forts quand ils parlent. C'est... Oui.
Oui. Il est vrai que j'ai entendu parler Michel Quast. On prononce comme ça Michel Quast. Je crois que c'est un prêtre français. Il est venu faire une tournée en Angleterre. Et j'ai dû faire un peu d'interprétation pour lui. Mmh. J'ai trouvé très très facile parce que ces phrases étaient très très bien formées.
Oui.
C'est intéressant, oui ça. Y a-t-il en France un organisme qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français?
Du bon français, non.
Oui.
Mm-hmm. Non, il y a un organisme qui décide si c'est un mot français ou non.
Oui.
Mais qui est du bon français, non, c'est les grammairiens, c'est tout. Les grammairiens acceptent tel mot ou ne l'acceptent pas. Et pour dire si c'est bon ou mauvais français, on fait ça rien au même. Enfin, c'est ça, hein?
Moi, je sais. Oui, mais enfin, c'est.
Ils ne disent pas si c'est du bon ou du mauvais français. Ils disent c'est du français ou ce n'est pas du français. C'est ça, hein?
Je crois que c'est. Quand on fait un dictionnaire, en principe,
les mots qui doivent être mis dans un dictionnaire doivent être des mots français. Ben, on voit souvent tournure populaire ou forme argotique, mais enfin, ils disent pas. C'est toi qui dois faire la critique, dire si tu dois l'employer ou si tu ne dois pas l'employer. Maintenant, il y a des professeurs, des fois, moi je me rappelle à l'école, quand on faisait des dissertations, ils nous disaient ça, c'est impropre, il ne faut pas dire ça, il faut plutôt exprimer sa façon de penser comme ça.
Mais ce n'était pas un organisme national qui décide de ça ou de ça.
Non. Est-ce que vous croyez que cela serait utile?
Bon, je pense que ce n'est pas dans l'organisme national qu'il faut, c'est dans les collèges, tout ça, c'est les gens. Qui est un organisme national qui décide de quelque chose? Si c'est pas transmis, si c'est pas enseigné, c'est pas la peine. Enfin, c'est comme tout, je pense que.
Je pense qu'il n'y en aura jamais, puisqu'il y a quand même une évolution de la langue, et certains mots qui, au XVIe ou XVIIe siècle, étaient vraiment quelque chose de malséant de dire, que maintenant on emploie très très bien. Je trouve qu'il y a quand même une évolution, et si on était obligé de tout codifier, il n'y aurait pas d'évolution de la langue.
Ben oui, mais ça pourrait être un organisme qui codifie avec l'évolution.
Oh oui, mais tu sais, tout ce qui est code, ça, en principe, ne se modifie pas. Donc c'est très difficile.
On dit quelquefois que la langue française se dégrade. Qu'en pensez-vous?
Se dégrade?
Alors, disons qu'il y a un organisme qui veille à ce qu'elle ne se dégrade pas.
Moi, je ne sais pas. Non, je ne pense pas qu'elle se dégrade. C'est-à-dire que, en majorité, les gens emploient beaucoup plus les formes argotiques. Peut-être dans ces cas-là, on dit qu'ils se dégradent. C'est vrai, il y a moins de recherche pour parler.
Oui. Bon, est-ce que vous seriez de l'avis qu'on devait obliger les journalistes et les speakers de la télévision à parler un bon français?
Oui.
Oui, parce que...
Parce que nos speakers de télévision sont quelconques.
Oui, quelconques, oui.
À part quelques-uns qui ont... Mais alors là, c'est toujours
de
pareil.
De l'ancienne école.
Vous voyez, j'en reviens à de la politique. Vous avez un monsieur comme Léon Zitrone. Vous connaissez?
J'ai entendu parler, oui.
Ouais, enfin, quand même, c'est un grand speaker. Il a un français impeccable. Enfin, toutes ces langues, en français. Eh bien, du moment qu'il n'est pas dans le collimateur politique actuel, il est supprimé. Et il est maintenant uniquement reporter sportif. Alors, quand vous voyez c'est le monsieur, on peut dire, je pense qu'il est un des plus forts. Les plus cultivés des speakers de la radio-télévision.
Et puis aussi, quand il s'agit d'interviewer des personnalités, ils le mettent toujours en avant.
Il a conservé seulement ce rôle, interviewer des personnalités importantes. Donc, les gens, l'organisation sait très bien, connaît très bien sa valeur, mais il y a le côté politique qui joue et tu montres quelqu'un, vous avez quelqu'un comme Raymond Marcillac. Vous connaissez le speaker pour l'émission sportive, qui est un français banal, qui est un homme sans diplôme, sans rien, quoi. Qui est monté uniquement par la politique, voyez. Et bien, c'est lui qui présente tout, qui est un grand chef. Alors, c'est pas une question de langue, c'est une question de politique. Comment voulez-vous arriver à quelque chose d'honnête? C'est pour ça.
Oui, bien sûr.
C'est caractéristique actuellement, depuis les événements de mai, plus encore.
Ah oui.
Ah oui.
C'est-à-dire que Marcillac, il était déjà.
Ils ont envoyé des personnes de classe qui, du moins, qui n'étaient pas. Ah oui, oui, vous avez.
Oui, mais lui, c'est quand même un peu différent. C'était... parce qu'il venait à la télévision, il faisait des cours, puisqu'il était. Il agrégé à la Sorbonne.
C'était le speaker français qui présentait toutes les émissions quand il y avait les reportages américains, là, vous savez, des fusées et tout, interplanétaires. Bon, c'est lui qui donnait toutes les explications. C'était un agrégé de sciences à Sorbonne et tout, et pour la Sorbonne.
Je sais pas où il est enseignant.
C'était un monsieur qui avait, c'est un jeune qui avait beaucoup de classe. Eh bien, il a été supprimé parce que pour il n'était pas politique dans le sens actuel, quoi. Alors, il ne faut pas chercher à parler français quand on commence par parler politique. C'est des choses bien différentes. Mmh. Et un monsieur qui est de la gauche ou de l'extrême droite peut aussi bien parler qu'un gaulliste. Hein. Si vous avez entendu parler Christian Fouché, hein, qui est un âne parfait, qui était ministre de l'Éducation nationale, quand vous l'entendez parler...
Oui, je crois que je l'ai entendu à la radio. On le reçoit quelquefois chez nous. Oui.
C'est dommage, quoi.
Il y a Edgar Faure aussi qui a parlé.
Mais Edgar Faure parle bien, oui. Avec beaucoup d'essence et dans le français.
Bon, quoi,
je sais pas tellement, mais c'est pas mal.
Mais en principe, ces gens-là, quand ils font des discours, ils sont préparés d'avance, ils parlent bien français.
Pas tous.
C'est quand ils sont pris sur le vif que c'est moins formidable.
Aujourd'hui, à votre avis, est-ce que l'orthographe de la langue est aussi bien enseignée qu'autrefois, du temps que vous étiez à l'école?
Alors ça suscite beaucoup de controverses, hein, l'enseignement de l'orthographe au petit.
Il est aussi bien enseigné que du temps où nous étions à l'école. Mm-hmm. Oui, parce que nous, il y a pas longtemps que nous étions à l'école.
Oui, mais c'était une méthode différente.
Oui, mais il est beaucoup moins bien enseigné qu'il y a 30 ans ou 40 ans.
Oh, c'est dans la mesure où on te tape plus sur les doigts quand tu fais une faute.
Les résultats sont quand même là.
Non, mais ce qu'il y a beaucoup, c'est que maintenant, quand on apprend l'orthographe aux enfants, on apprend avec les sons. Le B, ils disent B. Et alors, pendant très très longtemps, et on arrive à avoir des enfants qui font des fautes.
C'est pas l'orthographe, c'est la grammaire qu'il faut parler.
Non, c'est l'orthographe. L'orthographe du mot lui-même. Parce que comme c'est par le son, il y a des enfants à qui cette méthode ne convient pas. Et on donnerait véritablement la même valeur aux lettres, vraiment. Ça serait tout à fait différent, il ferait bien moins de fautes. Moi, j'ai entendu beaucoup d'enseignantes se plaindre de ça, que cette méthode ne réussissait pas. Ça a changé, vraiment.
La correction de la langue, aussi.
Comment c'est la correction de la langue?
C'est peut-être la même chose, pour vous, l'orthographe et la correction de la langue.
Si vous entendez pas la correction.
À vrai dire, je n'entends rien moi-même, ce n'est pas moi qui ai fait ce partie du questionnaire.
C'est que ça veut dire les règles de la grammaire.
Oui.
Ah oui.
Oui.
Les règles de grammaire. Et les règles de grammaire ne sont pas données si strictement qu'il y a très longtemps. C'est ça que vous demandez.
Oui.
Il y a l'orthographe parlée et l'orthographe après.
Il y a l'orthographe, les mots, comment s'écrivent, pas mettre deux R ou pas mettre deux N. Et puis après, il y a vraiment
la grammaire.
Le participe passé avec le verbe avoir, avec le verbe être. La grammaire. Bon, la grammaire, c'est encore assez stricte.
Oui.
Même beaucoup. On en fait copier des conjugaisons.
Ah, oui, en plus, ça ne suit pas tout.
Dans quelle matière est-ce que vous étiez le plus fort à l'école?
En mathématiques.
Ou en français?
Sciences, enfin mathématiques, sciences. Oui.
Français pour vous, madame.
Oui.
Sciences, puis alors artistique, quoi.
Ah oui.
Et habituellement, madame, avez-vous quelque chose pour écrire sur vous dans votre sac à main?
Un bloc
En crayon.
Un crayon
Toujours.
Oui. Ah oui.
Un bloc et un crayon.
Oui, toujours.
Oui. Est-ce que vous avez un stylo à encre?
J'ai un stylo à encre à la maison, mais pour écrire dehors, hein. Quand j'écris une lettre ou quand j'écris
stylo à encre dans mon sac,
quand je fais un devoir, mais
bon,
pour écrire comme ça, non, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est moins pratique.
Ah oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quand vous avez écrit pour la dernière fois?
Il y a 5 minutes.
Oui, il y a 5 minutes, c'est ça, aujourd'hui.
crime.
Moi, vendredi.
C'était pourquoi, madame?
Oh, ben, c'est la rédaction, toujours. C'est ce que je fais habituellement, toute la journée.
Moi, c'est pour des devoirs.
Des devoirs.
Devoirs, courrier.
Pour vos oui. L'un des parts, d'ailleurs.
Comment?
L'un des parts, d'ailleurs.
Oui.
Vous avez besoin d'écrire pour votre travail, oui, ça, c'est très simple. Oui. Si vous deviez dire quelque chose à une personne habitant à 5 km de chez vous, est-ce que vous préféreriez vous déplacer ou lui écrire une lettre? D'abord un ami.
Téléphoner.
Me déplacer. Me déplacer.
Et si on n'a pas de téléphone?
Ah ben, me déplacer. Et si c'était un supérieur? Même jeu, si cette personne habitait à 5 km de chez vous, sans téléphone, est-ce que vous vous dépasseriez ou vous écririez?
On écrit. Plus facilement.
Oui, plus
on
facilement.
Écrit parce que c'est quand même la politesse qui veut.
Oui, et puis il y a quelque chose qui reste. Et... Oui.
Oui. Mais vous vous dépasseriez pour un ami?
Oui. Est-il important pour vous, madame, d'avoir une belle écriture?
Dans mon travail, ça peut être important parce que quelqu'un tape après moi, tape ce que j'écris. Alors c'est souvent que j'entends dire que j'écris très mal. Mais enfin, dans l'ensemble, je trouve que c'est plus poli de bien écrire.
Oui, quand on peut.
Quand on peut, oui. Quand on a le temps.
Est-ce qu'il est important, selon vous, d'avoir de l'orthographe?
Certainement.
De l'orthographe. Ah oui, oui.
Très important.
C'est important, oui.
C'est même très important, parce que certaines personnes jugent plus sur l'orthographe que sur le fond de la lettre.
Oui.
Ça, c'est... Pas forcément ces personnes ont raison, absolue. Enfin, étant donné qu'on s'expose à ces jugements, on essaie d'avoir l'orthographe. Vous comprenez?
Oui. Est-ce que vous seriez favorable à une réforme de l'orthographe?
Oh non. Ça serait l'anarchie, une réforme de l'orthographe. Chacun écrirait comme il l'entend, on ne se comprendrait même pas soi-même.
Ou alors à une évolution très douce, mais pas une réforme totale, quoi.
Et qui de vous écrit habituellement à des amis communs?
Les deux.
Oui, c'est pas... Oui. C'est suivant le temps dont on dispose. Si l'un dispose plus de temps que l'autre, il s'en acquitte, sinon...
Moi, j'écris peut-être plus, quand même.
Ici, oui, parce que moi, je peux être traumatisée. J'écris toute la journée sans arrêter. Alors après, je veux plus.
C'est les deux sans...
Oui. Et si c'est votre famille à vous, monsieur, vous écrivez ou...
Non.
Au téléphone?
C'est pas ça la question. Non, si c'est ma famille, c'est moi qui écris, non, pas spécialement.
Ah non, non, c'est... Oui.
Et à votre famille, madame?
Pareil.
Qui est-ce qui remplit les papiers administratifs? La feuille d'impôt.
Ah, c'est moi.
La feuille de sécurité sociale avec maladie.
C'est moi.
C'est le travail à la sécurité sociale.
Ah oui, c'est pour cela.
Au ministère des Affaires sociales, pas dans les caisses.
Oui. Alors, je ne sais pas si vous voudriez nous dire lequel d'entre vous possède la meilleure orthographe.
C'est toi. Ah, si, certainement.
Oui, peut-être.
Elle a quand même fait préparation en propédeutique, tout, oui. Pour être professeur.
Ah, oui.
Et puis moi, je ne suis pas excessivement fort en orthographe.
Et la plus belle écriture?
Alors, c'est moi.
Oh! Alors,
vous n'êtes pas d'accord.
Moi, j'ai tellement entendu dire que j'écrivais mal que je ne dis plus rien.
Non, quand même, il faut.
Bon, moi, je veux bien.
et qui parle un meilleur français.
C'est elle.
Oh, je sais pas. Tu sais.
Non, mais enfin, c'est...
Je m'entends pas.
C'est pareil, non?
Non, c'est pareil, oui. Et écrit dans le meilleur français?
Écrit dans le meilleur français, c'est elle qui écrit dans le meilleur français. C'est ma femme. Oui, certainement. Mais ça, c'est normal de par la formation. Vous voyez, on retouche.
Et puis, c'est-à-dire que je suis obligée de faire de la rédaction tous les jours.
Et puis alors, sa formation latine et tout est là. Vous voyez ce que je vous disais?
Ah, je suis obligée quand même.
Oui, c'est certain. Je n'ai pas de... Et j'ai pas les bases en français que peut avoir ma femme.
Combien de lettres écrivez-vous en moyenne par mois?
De lettres?
Oui, pour votre travail. D'abord?
C'est beaucoup. Donc pour le travail, vous pouvez mettre...
Moi, je ne peux pas les compter. Je ne peux pas les compter parce que vraiment...
150, 200, 300. Je veux dire, ça peut arriver jusque-là.
Et au travail?
Ça, c'est en travail, ça.
Oui, en travail, hors travail.
10, 7, 8.
Oh oui, parce que la plupart du temps, je sers beaucoup plus du téléphone.
Oui,
pareil.
Mais est-ce que vous conservez les lettres qu'on vous envoie?
Non.
Si, certaines. Celles qui viennent des amis, on les conserve. Celles qui viennent de la famille, en particulier, non.
Les lettres courantes, nous ne les conservons pas.
Oui. Enfin, quand c'est des amis, on les conserve.
On a des balises.
On les conserve, disons, au moins 6-7 mois, et après, elles vont régulièrement à la poubelle.
Et combien en possédez-vous environ, ces lettres?
Pas beaucoup.
On a fait 2 déménagements successifs, et à chaque fois...
Pas beaucoup, quelques dizaines, mais c'est tout. On va la chercher, pour rappeler quand elle sera toute venue.
Écoute,